traditionnel. Donc maintenant, je vous propose d'ouvrir la séance du conseil municipal. Nous allons commencer, comme traditionnellement, par l'appel nominal des conseillers. Abena Laurence.
Présent.
Enzi Jean.
Présent.
Arnaud Michel, présent. Arnaud Odile.
Présent.
Barouin Dolores.
Absente.
Absente.
Elle a un pouvoir, mais qui ne va pas.
D'accord.
Il y a deux
noms. C'est un peu compliqué.
Oui.
Ah oui. Biaise Michel.
Présent.
Baumler Laurent.
Présent.
Boucli Johan.
Absent.
Absent. Pouvoir à René Brouillard. Brouillard René.
Présent.
Carpentier Annie.
Présent.
Kérol Evelyne.
Présente.
Clos Marie.
Présent.
Coulé Dominique. Fago Edwige.
Absente.
Donc absente, pouvoir à Marie-Claude. Floury Patrick.
Présent.
Fourdrin Stéphanie.
Présente.
Grosbon Lisiane.
Présente.
L'ami Christophe.
Oui.
Le Mercier Jean-Claude.
Absent.
Absent. Pour l'instant, absent. Merlin Marie-France.
Présent.
Panier Francis.
Présent.
Rabé Philippe.
Présent.
Raguido Cécile.
Présente.
Raoui Ferrugia.
Présent.
Sauvage Patrick.
Présent.
Urbano Patrick.
Pouvoir.
Absent. Pouvoir à Patrick Floury. Il y a donc 22 conseillers municipaux présents. Le quorum est atteint. La séance sera donc valide. Très bien. Secrétaire de séance.
Non, c'est bon.
D'accord. Evelyne Kérol, secrétaire de séance. Qui s'abstient? Pardon, qui est contre? Qui s'abstient? Bon, Evelyne Kérol, secrétaire de séance, à l'unanimité. Donc, nous avons reçu les pouvoirs suivants. Trois pouvoirs au total. Donc, Boucli Johan à René Brouillard, Fago Edwige à Marie-Claude et Urbano Patrick à Patrick Floury. Voilà. Avant d'aller plus loin et de lire l'ordre du jour, comme le savent un certain nombre de personnes qui sont ici, Monsieur Marcel Bourson est décédé cette semaine. Je vais donc vous demander d'honorer une minute de silence à sa mémoire, mais je vais rappeler pour tous qui était Marcel Bourson, en particulier vu du conseil municipal. Donc en fait, Monsieur Marcel Bourson a été élu à Verberie pendant 30 ans. Il a commencé sa carrière de conseiller municipal en 1971 avec Monsieur Pierre Firmin, comme maire. Il a depuis été conseiller municipal, puis adjoint, on va y revenir, jusqu'en 2001. Donc en 1977, toujours conseiller municipal, mais cette fois-ci avec M. Edgar Floury comme maire. En 1983, premier adjoint ici à la mairie avec M. Yves Pinjot comme maire. Ensuite, en 1989, toujours avec M. Yves Pinjot, troisième adjoint, adjoint aux finances. Bon, de son métier, il était comptable, donc il y avait une certaine logique dans l'affaire. 1995, toujours avec M. Patrick Floury, adjoint aux finances. Et puis en 2001, M. Bourson, Marcel Bourson, a cessé de se présenter à l'élection municipale. J'ajouterai que la famille Bourson est depuis très 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 longtemps à Verberie. Alors la date initiale, je ne l'ai pas. Je rappellerai simplement que nous avons une rue Marcel Bourson. Bon, la rue Marcel Bourson n'est évidemment pas une rue qui était dédiée à à Marcel Bourson dont je viens de parler, mais à son papa, qui lui aussi avait été alors conseiller municipal, peut-être adjoint, là je... Et adjoint également, jusqu'en... a priori, il est décédé en 1966, si j'ai bien lu.
Oui, donc,
d'accord, voilà. Donc, une famille très impliquée dans la vie municipale, lui très impliqué pendant 30 ans. C'est quand même un engagement fort. Enfin, c'est, pardon, le quand même, vous le retirez. C'est un engagement fort au service de la ville et des habitants pendant toutes ces années. Et j'ajoute qu'il ne s'est pas arrêté là. Alors, je n'ai pas les dates exactes sur ces affaires-là, mais il a été également quelqu'un qui a participé de manière très, très active à la vie associative à Verberie, puisqu'il a été, je crois, trésorier au sein de la Compagnie d'Arc. Il a été également au basket, l'association du basket, peut-être aussi comme trésorier, parce que ça devait le suivre quelque part. Et je crois qu'il a été administrateur à l'association familiale ou...
Agriculture aussi.
Et il a été agriculture. Donc toujours très impliqué.
Et puis souvenir français aussi. Il était trésorier au souvenir français.
Voilà, trésorier au souvenir français. Je vais le noter d'ailleurs.
Oui.
Trésorier au souvenir français. Donc, eh bien, écoutez, une vie qui a quand même été consacrée pendant de longues années à la vie municipale. Ça mérite évidemment le respect. Et donc, ben, je vous invite maintenant à nous lever et à faire une minute de silence en sa mémoire. Voilà, pour se rasseoir. J'ajouterai pour conclure que l'enterrement a lieu demain à 9h30. Donc ceux qui peuvent s'y rendre, ben, évidemment, ce sera très bien. Personnellement, je m'y rendrai. Bien, lecture de l'ordre du jour. Donc après... l'élection du secrétaire de séance. Nous aurons donc l'approbation du procès-verbal des délibérations du dernier conseil municipal du 31 août 2015, la lecture des droits de décision, pardon, des décisions de droit de préemption urbain, la lecture de la décision du maire numéro 6. Ensuite, nous aurons un débat autour du projet de construction de logements intergénérationnels. Le point suivant, ce sera la mise en accessibilité des bâtiments publics aux personnes à mobilité réduite. Ensuite, une acquisition de terrain qui vous sera proposée. Nous évoquerons également la révision du plan local d'urbanisme, puisque nous allons demander des subventions supplémentaires. Toujours dans le domaine des subventions, une troisième tranche pour les travaux de bancs de l'église. Une demande d'autorisation, alors nous allons émettre un avis sur une demande d'autorisation pour le renouvellement et l'extension d'une carrière sur la commune de Rivecourt. Voilà, puisque je crois qu'il n'y a pas eu de questions diverses, ça clôturera le conseil municipal. Voilà. Donc, premier point du conseil, de ce conseil, l'approbation du procès-verbal des délibérations du conseil municipal du 31 août 2015. Y a-t-il des questions, des observations, des commentaires ? Très bien. Qui vote contre ? Qui s'abstient ? Donc, le procès-verbal des délibérations du conseil municipal du 31 août 2015 est approuvé l'unanimité. Alors, la lecture des droits de préemption urbain, maintenant, à partir du 38. Très bien. Donc, nous n'avons pas exercé durant cette période et la lecture que je vais faire, le droit de préemption urbain. Donc, ont été soumis à ce droit, monsieur, madame Depp-Philippe, 6 rue Gustave Bouffet, Monsieur Chekal Darman Lacroix, au 46 Clos Saint-Corneille. Les consorts Laure, au 35 de la rue Saint-Nicolas. La SCI Les Remparts, au 38-40 rue de la République. Donc la SCI Les Remparts, eh bien, c'est, en fait, c'est la pharmacie. Donc nous allons changer de pharmacien, a priori. Monsieur, Madame Benoît Lucien, 51 bis avenue René Firmin. Monsieur Carvalho Sergio, pardon, au 41 rue du Port. Monsieur Lalade Aurélien, au 6 rue Albert Camus. La SCI Les Logis Roses, au 40 rue Juliette Adam. Monsieur Madame Barocci Jean-Marc, 12 allée des Soupirs. La SCI Domino, à la main fermée. Monsieur Garban Jacques, au 7 Clos Saint-Corneille. Et monsieur et madame Fantoni, Marco Estelle, au 2 rue Claude Carlier. Pour la main fermée, ça concernait donc les zones, enfin une des zones qui se trouve actuellement à côté du centre équestre et sur lesquelles, enfin il y en a une des deux, il y a une construction et l'autre, l'autre aussi d'ailleurs. Donc ça se situait à cet endroit-là. Voilà. Voilà pour les décisions droit de préemption urbain.
Vous en savez un peu plus sur le pharmacien qui s'en va ?
Bah, moi, j'ai vu passer un droit de préemption là-dessus. Je sais qu'il y a un autre pharmacien qui arrive. Maintenant, je n'ai pas le nom ici. Voilà. Donc je vous propose de lire la décision du maire numéro 6. Donc monsieur Michel Arnoux, maire de Verberie, vu le code des collectivités territoriales, vu la délibération du conseil municipal du 25 avril 2014 relative aux dérogations accordées au maire, décide de signer ce jour le marché de travaux relative à la mise en conformité du carrefour à feu de la rue Marguerite-Yourcenar et de la route de Pont avec l'entreprise Cofeli-Inéo, réseau Nord-Ouest. Agence de l'Oise, 5, avenue Henri Adnaud, CS 90 117 6201, Compiègne, CEDEX, pour un montant de 53 479 euros hors taxes, 64 174,80 euros, toutes taxes comprises, qui a été passée sur procédure adaptée. Il s'agit donc du feu qui se situe au collège. C'était le dernier feu tricolore de la commune qui était en 110 volts. Donc le 110 volts en plus présente, je crois, du point de vue électrique, un danger particulier. Les contrôleurs, ou armoires, je ne sais plus comment on dit, de ce feu très ancien étaient évidemment de fonctionnalités très limitées. Il va donc être remplacé par un feu sur lequel nous aurons davantage de fonctionnalités qui permettra notamment d'assurer plus de sécurité pour les piétons, notamment qui traversent la route de Pont, à ce niveau-là, puisqu'il y avait parfois une concurrence entre les véhicules qui sortaient du collège au feu vert et les piétons qui voulaient traverser, qui sont en plus des enfants. Donc ça mettra fin à cette affaire-là en donnant un temps à chacun. Et puis ce feu sera équipé d'un radar, d'un feu récompense. C'est le feu récompense, je rappelle, il y en a un à Villeneuve-sur-Verberie qui est installé d'ailleurs. Je crois qu'il y en a un aussi à Saint-Yne, à l'entrée de Saint-Yne. Le feu récompense fonctionne selon le système suivant. Si la personne arrive au-dessous de la vitesse maximale autorisée, le feu se met au vert. Si la personne arrive au-dessus de la vitesse autorisée, le feu reste rouge. Voilà. Et donc la personne est obligée d'attendre un certain temps, ce qui fait qu'il est pénalisé. Bon, je crois savoir que ça marche bien. Donc ça assurera aussi une plus grande sécurité. À la fois des enfants, de tout ce monde-là qui vit dans ce quartier, sachant qu'on a beaucoup de traversées de route à ce niveau-là, puisque nous avons à la fois le collège, la halle des sports, le City Stade et la salle d'Agobert. Voilà pour ce point. Point suivant de l'ordre du jour, donc le projet de construction intergénérationnelle. Alors, vous pouvez... Alors, je ne sais pas s'il faut... Vous pouvez peut-être laisser... Est-ce que tout le monde voit en dépit de la lumière ? Comment ? Moi, ça va, mais il faut que je demande à tout le monde. Les personnes qui sont peuvent se déplacer, pardon, les personnes qui sont hors conseil peuvent se déplacer à ce niveau-là, hein, si elles veulent voir. Hein. Donc, je rappelle que... Oui, alors, monsieur Jean-Claude Lemercier, pardon, excuse-moi, Jean-Claude, est entré il y a quelques minutes, donc, au conseil municipal. Très bien. Donc, sur ce projet, je rappelle que une présentation nous a été faite le 19 juin, si j'ai bonne mémoire. Pardon ? Le 9 juillet, pardon. Le 9 juillet, par la société Bouygues Grand Ouest, qui est venue ici faire une présentation. Il y a d'ailleurs, dans le compte-rendu du conseil municipal, tout un paragraphe qui concerne les discussions que nous avons eues au moment de ce conseil municipal. Je vais néanmoins rappeler ou dire un certain nombre de choses avant que de commencer le débat. Là, vous avez, bon, je rappelle déjà qu'il s'agit, dans ce qui vous est présenté, d'un avant-projet, parce qu'il est clair que ce qu'on nous demande aujourd'hui, c'est un accord de principe, donc accord de principe pour négocier en fait l'achat du foncier. On n'en est pas au permis de construire, ou voilà, les affaires ne sont pas finalisées. Donc là, c'est le résultat d'un bureau d'architectes qui a travaillé en avril sur les lieux. Alors, cette affaire, donc, il s'agit d'une réalisation d'une résidence de qualité par Bouygues Grand Ouest, qui serait porteur du projet, et qui a le souhait fort de travailler en partenariat avec la mairie et la commune. Cette société réalise des choses qu'on peut voir dans la région. Elle a réalisé notamment déjà une résidence intergénérationnelle à Choisy-au-Bac. Nous avons été quelques-uns à aller la visiter, trois ou quatre à aller la visiter à ce moment-là pour voir comment était cette construction et quelle était sa qualité. Bon, c'est pas cette construction-là, parce qu'il est évident que chaque construction est adaptée au terrain. Mais c'était exactement le même type de projet. Et nous avons pu voir, mesurer la qualité, en fait, de la construction. D'ailleurs, Laurence, tu étais avec nous, je crois. Comme Laurence était quand même dans le milieu, quelqu'un qui travaille pas mal dans ce milieu-là, qu'est-ce que tu as pensé, toi, de la construction que tu as vue à Choisy-au-Bac, au point de vue construction, quoi ?
Construction ?
Oui.
Le projet était quand même bien ficelé.
Oui.
Après, c'était aussi un pas mal de terrain, donc c'était sur deux ou trois niveaux.
Oui.
Il y avait des parkings sur le côté, non ? C'était bien agencé, en fait, un espace de circulation aussi pour les personnes âgées. On a visité aussi deux ou trois logements.
Deux ou trois logements, chez deux.
Vides et occupés, et bon, les gens sont vraiment ravis. Au niveau de l'agencement, de ce qu'ils recherchent, voilà. Après, là, c'était des personnes âgées qu'on avait.
Alors, ce qui s'est passé aussi là-bas, c'est que, et qu'on a constaté, au départ, ils avaient construit une résidence plutôt pour orienter vers les personnes âgées. Ce qu'on a constaté, c'est que au rez-de-chaussée, finalement, il y a beaucoup de professionnels de santé qui se sont installés. Donc, c'est quelque chose qui nous a paru également intéressant. Dans cette affaire-là. Aujourd'hui, sur le projet qui nous est proposé, d'abord sur le site où ça va se passer, c'est à la planche suivante, je pense. Voilà. Donc vous voyez ici l'endroit, vous voyez la nouvelle cantine qui est installée, les pompiers. Et en fait, ce projet se place juste derrière. Donc vous voyez un des bâtiments de la résidence du parc qui est là, et une moitié d'autres bâtiments, voilà, qui se situent ici. voilà, entre les deux. Ce qu'on peut dire encore, c'est sur ce projet, donc, qu'il est construit sur un terrain privé, qui est en zone UC, c'est-à-dire pour habitat collectif, du plan local d'urbanisme qui est applicable depuis 2001. Vu la qualité des terrains qui sont à cet endroit-là, la construction, c'est une construction qui nécessite l'utilisation de pieux, comme d'ailleurs ça a été fait à la résidence du parc. Hein. Et l'accès à cette résidence intergénérationnelle se ferait par la Sente des Merlets. Voilà, ce qui indique la flèche rouge. Est-ce que tout le monde voit exactement où se situe le projet ? Bon, ensuite, le descriptif de la résidence. Alors, oui, on peut mettre celle-là, mais bon, on peut laisser celle-là. Donc, cette résidence comporterait 48 logements aidés de taille T2 et T3. Donc c'est pour des petites familles, typiquement, soit un couple avec un enfant. Voilà la taille des logements de cette résidence. Alors, comme il s'agit de logements aidés, il y a des prêts ou des aides qui sont accordées par l'État. Sur les 48 logements, il y aurait ce qu'on appelle 10 PLAI. Donc PLAI, ce sont en fait les logements qui sont les plus aidés. Ensuite, il y aurait 30 logements dits plus, donc ce sont des logements qui sont moyennement aidés, et 8 logements PLS, donc ce sont les logements qui sont le moins aidés. Comme ces logements sont aidés, il y a des niveaux de revenus maximum pour pouvoir s'y loger. Alors, justement, sur ces revenus maximums, pour ce qui concerne une famille avec un enfant, donc en ce qui concerne les PLAI, le plafond des ressources serait de 21 311 euros par an. Voilà, c'est déjà... Ce sont les logements les plus aidés. Les logements ensuite qui sont moyennement aidés, alors le loyer va bien sûr croissant, donc les 30, et là c'est un plafond de ressources de 35 520 euros par an. Donc on voit que c'est déjà du niveau, je pense, de jeunes cadres, qui, même en couple, hein, qui débutent tous les deux dans le monde économique d'aujourd'hui. Et puis en ce qui concerne les PLS, c'est 45 960 euros de niveau maximum de ressources pour y avoir droit. On voit que c'est quand même déjà relativement important. Ça concerne une famille avec un enfant. Alors, attendez, je vais regarder un peu dans ma documentation, parce que les personnes âgées, évidemment, ce serait plutôt deux personnes, ou une personne, hein. Donc, une personne seule, je reprends, dans le logement les plus aidés, une personne seule, c'est 11 058 euros de revenu maximum. Deux personnes, c'est 16 112 euros. Voilà. Pour ceux qui sont moyennement aidés, une personne seule, le plafond de ressources est de 20 107 euros et de 26 851 euros pour un couple, pardon. Et pour les logements les moins aidés, c'est pour une personne seule, le plafond est de 26 017 euros, et pour deux personnes, de 34 742 euros. Voilà, ça vous donne une idée des plafonds de ressources maximum. Vous voyez qu'ils sont déjà quand même, de mon point de vue, relativement élevés. Non, là il s'agit... Là, c'est le revenu fiscal déclaré. Oui, mais il y avait aussi une correction multipliée par 1,10 qui permet d'avoir le revenu fiscal prise en compte. Oui.
Et par rapport aussi, par rapport à leur plan de financement.
Oui, vas-y.
C'est le pourcentage en fait entre PLAI plus et PLS.
Donc en fait, on est à 21-22% en PLAI, ça veut dire que c'est que 10 logements, et tout le reste est concerné quand même par des familles avec des revenus quand même assez élevés. Donc à savoir qu'aujourd'hui, les retraités sont quand même avec des revenus souvent faibles, donc on peut se retrouver avec une famille avec peu de revenus ou un retraité, mais sur 10 logements de cette résidence.
Alors je vais continuer sur un certain nombre de points. En termes de résidence intergénérationnelle, bah pour les seniors, ce serait une alternative complémentaire à résidoise. L'emplacement pour des personnes, les seniors en particulier, à proximité de la cantine, il peut y avoir un intérêt. Typiquement, à Choisy-au-Bac, il l'avait placé à proximité de la cantine. Et les personnes qu'ils désiraient pouvaient s'inscrire et venir manger à la cantine. Donc c'est une possibilité qu'on pourrait également examiner. L'emplacement est également à proximité du centre-ville et des gendarmes. Les gendarmes, c'est, je pense, toujours rassurant. Le centre-ville, les personnes âgées, il ne faut pas qu'elles soient à l'écart, enfin, c'est mon point de vue, il ne faut pas qu'elles soient à l'écart de la vie de la ville, et il faut mieux qu'elles soient à proximité du centre-ville. Il y aurait 24 logements pour les personnes seniors et 24 logements pour des actifs, puisque l'idée c'était de mêler un peu les âges sans aller trop loin. Alors la cible visée pour les actifs, comme on a vu que c'était des T2 et des T3, c'est plutôt des jeunes actifs en fait, hein, derrière ça, des gens qui débutent leur vie professionnelle. Ensuite, quand j'ai dit que ce serait qu'on n'allait pas trop loin, on associait effectivement les personnes seniors et des jeunes actifs, puisque c'est la cible visée, mais quelque part on comprend aussi que les seniors peuvent vouloir un peu plus de tranquillité, tout en croisant de manière régulière les jeunes. Et dans le bâtiment, vous voyez qu'en fait, vous considérez soit qu'il y a 4 bâtiments, soit qu'il y a 2 bâtiments. On va considérer là qu'il y a 2 bâtiments. Et donc toutes les personnes seniors seraient dans un bâtiment et les personnes, les actifs, dans un autre bâtiment. Ce qui fait qu'ils seraient à proximité, ils se croiseraient, mais chacun garde un peu sa tranquillité. Ça nous a semblé un bon compromis. L'idée, c'est aussi que derrière ça, des personnes seniors qui viendraient habiter là, pour une partie, libèrent des logements plus grands dans Verbery et donc laisse la place à des familles dans Verbery, dans des maisons par exemple, qu'ils libèrent parce qu'ils arrivent à un moment où ils préfèrent effectivement plutôt, soit suite malheureusement à la disparition du conjoint, soit simplement parce qu'on désire habiter dans quelque chose qui demande moins d'entretien, venir dans ce style de logement. Nous avons la possibilité, donc ça fera partie de discussion, d'attribuer tous les PLAI aux personnes seniors. Donc ça peut être un choix, comme je ne sais plus qui l'a dit tout à l'heure, c'est toi Laurence, les personnes seniors ont souvent moins de revenus, donc les PLAI peuvent être orientés vers les personnes seniors, et donc conserver les plus et les PLS pour les jeunes actifs ou les actifs. Alors j'évoquais tout à l'heure la possibilité d'avoir des personnels de santé au rez-de-chaussée avec des logements déconventionnés, parce qu'à partir de ce moment-là, les logements sont déconventionnés. J'ai pris contact avec certains professionnels de santé à Verbery que je dois rencontrer et qui sont très intéressés par cette affaire-là. Voilà. Tout simplement parce que sur les emplacements actuels, c'est difficile. Dans Verbery, il faut bien voir que donc nous avons aujourd'hui quand même un nombre de médecins qui est significatif, mais même supérieur à la norme nationale. Toutefois, ce qu'on peut constater, c'est que dans les villages environnants, communes environnantes, beaucoup viennent sur Verbery aussi, ce qui fait que les cabinets médicaux sont quand même très très remplis. Par contre, quand on regarde l'âge de nos médecins, la situation pourrait se dégrader. parce qu'ils ont tous à peu près, enfin pas tous, mais il y a quand même un nombre de médecins qui ont approximativement le même âge. Voilà, donc c'est une possibilité qui me semble intéressante. Il faut dire, voilà, en plus, aujourd'hui, sur ce projet qui pourrait arriver dans 2 à 3 ans, il serait évidemment en accessibilité totale pour le handicap. Et là aussi, ça intéresse les professionnels de santé qui ne sont pas forcément dans des endroits où facile d'accès. Voilà. Les élus participent naturellement à la commission d'attribution des logements, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui avec Résidoise. Alors, je sais pas si ça fonctionne, mais il n'y a pas de commission d'attribution de logements, c'est un autre mécanisme. Alors, dans ces logements, il y aurait donc un contingent mairie, un contingent État et un contingent... Peut y avoir aussi un contingent communauté de communes ou communauté d'agglomération avec et plus un contingent bailleur social. Voilà. Alors, ce qui aujourd'hui, dans la sélection du bailleur social, parce qu'évidemment il y a un avant-projet, il n'y a pas de bailleurs sociaux choisis, ce que m'a dit le porteur de projet, c'est que dès aujourd'hui, il y avait plusieurs bailleurs sociaux qui étaient intéressés. Donc ça, c'est quand même, ça veut dire qu'il y a le choix. Et dans ce domaine-là, typiquement, l'un des points forts, ce sera justement de voir comment se répartissent ces contingents, sachant que le porteur de projet veut faire le choix du bailleur social en accord avec la commune. Le projet coûte ici 0 euros à la commune. Ça aussi, c'est un point qui est intéressant, compte tenu des budgets et des budgets futurs qui vont venir. Il y a un autre point qui est aussi à signaler, c'est que, alors c'est une information, on pourra en parler tout à l'heure, mais comme vous l'avez sans doute suivi, la loi NOTRe vient d'être votée, donc Nouvelle Organisation des Territoires de la République vient d'être votée. Cette loi prévoit la disparition des intercommunalités de moins de 15 000 habitants. Nous sommes donc pleinement concernés, et ce, avant le 1er janvier 2017. C'est ce que dit la loi aujourd'hui. Donc nous... Dans ce cadre-là, il y a une très très forte probabilité qu'une fusion intervienne avec l'agglomération de la région de Compiègne. La conséquence à ce niveau-là, j'y reviendrai peut-être un peu tout à l'heure dans les informations. Si ce n'était pas le cas, l'un de vous me demande de le faire. Donc, simplement, je rappelle qu'en ce cas-là, aujourd'hui, nous ne sommes pas soumis à un quota en ce qui concerne les logements aidés. La ville de Verberie n'est pas soumise à ce quota parce qu'il y a un cadre qui est défini. Le cadre est assez complexe, de mémoire. Il faut être une ville de plus de 3500 habitants, ce que nous sommes, mais qui se trouve dans une intercommunalité de plus de 50 000 habitants, ce que nous ne sommes pas aujourd'hui, laquelle comporte une ville de plus de 15 000 habitants. Je vous donne ça de mémoire. Hein. Donc, en tout cas, ça veut dire que... Alors c'est possible, il y a une distance. Mais ça veut dire que de toute façon, si nous rentrons dans l'arc, typiquement, nous devons remplir ces quotas. D'ailleurs, la commune qui n'est pas très loin, la commune de la Croix-Saint-Ouen, a eu ou a menacé d'avoir, enfin, je pense qu'elle a dû payer des pénalités parce qu'elle n'avait pas le bon pourcentage de logements aidés. Aujourd'hui, les sanctions, justement, dans ce domaine, se renforcent régulièrement et les communes qui ne respectent pas ces quotas sont de plus en plus pénalisées. Voilà. Alors, je regarde si j'ai oublié quelque chose. Le porteur de projet nous demande un accord, tout simplement, pour acheter l'achat du foncier. Il est évident que nous n'en sommes pas au permis de construire. Pas du tout. La résidence intergénérationnelle, c'est aujourd'hui un concept d'actualité. Je serais tenté de dire à la lumière de ce que je vous ai dit avant, profitons-en tant que la porte est ouverte. Je ne suis pas sûr qu'elle reste ouverte très très longtemps. Aujourd'hui, d'ailleurs, il se construit, et cette société construit pas mal de résidences intergénérationnelles. J'ai cité le cas de Choisy-au-Bac, mais il y a aussi une construction qui a débuté ou qui va débuter à Chevrières, dans ce domaine-là, avec une résidence intergénérationnelle. Voilà. Enfin, je termine ce que je suis en train de dire. Alors oui, on va parcourir, pardon, je suis passé à autre chose. Toutes mes excuses, Monsieur Leblanc, mais je vois. On va reparcourir après. J'ajoute que dans cette affaire-là, alors il y a eu une proposition, on a eu une première présentation qui a été faite par la société Bouygues Grand Ouest, comme on l'a dit, le 9 juillet. Aujourd'hui, lors de cette réunion, justement, on avait discuté, on avait prévu d'en rediscuter courant du mois de septembre, ce que nous faisons aujourd'hui. Moi, de mon côté, je souhaite également, avant d'accorder ou pas un accord de principe définitif, faire une réunion de quartier avec les habitants qui sont concernés. Alors, ceci dit, a priori, les voisins sont concernés, mais aussi tout Verberie, parce que si on y va sur des professionnels de santé, on pourrait dire que ça concerne toute la ville. Mais bon, dans un premier temps, on peut dire qu'on fait une réunion de quartier, déjà, pour voir, pour éclaircir un certain nombre de choses et en parler. Avant de vous donner la parole, je propose de revenir, simplement de parcourir les planches, donc vous remontez un peu plus haut, s'il vous plaît. Voilà, on va le dérouler.
Le nombre d'étages n'est pas le même que sur les plans.
Alors, le nombre d'étages, j'y reviens. Attendez, vous avez l'étage, allez-y, remontez. Et encore. Ouais. Hein. Bon, celui-là, on en a discuté, ça va, c'est bon. Le suivant, donc là, on voit le rez-de-chaussée. Voilà, le R0, bon, c'est des T2 ou des T3. Là, il est évident que c'est un avant-projet, donc je ne vous dis pas que l'organisation des appartements, ce sera exactement comme ça au final. Mais bon, c'est des concepts qui, a priori, qu'ils maîtrisent bien, quand même. Voilà, bon, là, ce serait le R1 et le R2. Et allez-y, continuez. Et là, le R3 comble. C'est pas R3 et comble, hein. C'est R3
plus comble. R2 plus comble.
Oui, alors on l'appelle R2, R3. Enfin, on va regarder après, on le voit un peu mieux sur une autre planche. Voilà, sur cette planche-là, on le voit mieux. Vous voyez, c'est R3 en fait. Et vous avez, ça commence à. Y a des, c'est en sous-pente. Non, vous n'avez pas R plus 4. Vous avez le rez-de-chaussée. C'est des combles là, il n'y a rien là, hein. C'est des combles. La hauteur est de 13 mètres.
Par rapport au gabarit des bâtiments.
Alors, bon, le dessin a été fait par la société, donc je ne m'avance pas trop sur celui qui est à droite. Je sais que c'est moins haut, ça c'est clair. Et la hauteur qui est affichée, par contre vous ne pouvez pas le voir, mais elle est sur le schéma du haut à gauche, donc je vous demande de me croire sur parole, c'est marqué 13 mètres. Voilà. Une maison, c'est 9 mètres, ceci dit, hein, le maximum. Donc c'est pas déraisonnable. Ça montre, d'ailleurs, c'est ce qu'on voulait quelque part, qu'il y ait une pente qui aille vers la rue de Paris, parce que rue de Paris, on a quand même des logements individuels, et donc il faut qu'il y ait une certaine pente et que ça s'inscrive bien dans le terrain. Donc là, vous voyez les façades, façade par façade, hein, un peu comment ça s'oriente. Cette affaire-là, sachant que ce n'est qu'un avant-projet. Je le dis bien. Voilà, donc on voit bien qu'il y a R, alors on l'appelle 3 ou 2 plus comble. Bon, le 3, on voit qu'il commence comme un 3 et puis il finit quand même. Il y a déjà la pente qui commence. Bon, voilà. Donc vous avez ça qui est en place, cette planche. Est-ce qu'il y a d'autres choses à dire? Pas pour l'instant. On verra pour y revenir après si vous le souhaitez. Et là, vous avez une vue qui n'est pas quand même tout à fait une vue d'artiste, hein. Bon, on leur a demandé, lorsqu'elle les a rencontrés, ils sont d'accord, de rajouter des balcons à un endroit donné. Bon, il y a quelques... De toute façon, là, c'est un avant-projet. Après, s'il y a un accord de principe, après, de toute façon, il y aura un accompagnement et des discussions en permanence. Ce qui devrait nous rassurer, ce qui doit nous rassurer, c'est que typiquement, sur Choisy-au-Bac, ils ont construit ça en partenariat avec la mairie, et le partenariat a fonctionné de A jusqu'à Z. Voilà. Ce que je peux dire sur le sujet, alors on leur a demandé aussi de mettre des briquettes rouges, je crois, à l'extérieur, et pas flammées, mais on est allé jusqu'à ce style de discussion, sachant que, bon, c'est quand même un peu... voilà, faut avancer sur le projet. Voilà ce que je peux dire de ce projet. Bon, c'est pas énorme, c'est 48 logements. Bon. Et ça permettra effectivement d'accueillir 24... enfin, pour moi, des jeunes actifs. On voit bien qu'aujourd'hui, notamment sur Roissy, on a de plus en plus de personnes qui travaillent sur Roissy qui sont des jeunes actifs. Bon, on n'en a pas que sur Roissy, il y en a ailleurs, hein. Mais ça peut effectivement, dans un premier temps, dans des gens qui s'installent, qui sont au travail, je pense rendre un bon service. Pour les personnes, quand on vieillit, de toute façon on vieillit tous les jours, mais quand on atteint un moment donné, on désire peut-être avoir moins de charges de maison. Donc pour moi, ça me semble une bonne solution, toute cette affaire. Voilà ce que je voulais dire du sujet. Maintenant, je laisse les commentaires à qui veut prendre la parole. Oui, monsieur Floury.
Il y a un projet, il y a quelques années, qui était demandé par la SHRM de l'Oise sur ce même terrain, et nous étions opposés à ce projet parce que aujourd'hui, nous avons 23% d'habitat loyer modéré. Hein. Or, s'il y avait un quota, ce serait 25%. Donc, on est pratiquement sur ce domaine. Mais ce qui m'inquiète,
alors,
c'est que
il y a eu
la résidence du parc qui a été construite et que cette résidence du parc a été vendue à 2 800 € le mètre carré. Et, si vous voulez, avec l'assurance du celui qui engageait ses travaux et qui les vendait, qu'il y aurait derrière d'autres résidences. Et en aucun cas, il n'avait été question d'habitat loyer modéré. Bon, aujourd'hui, sur ce quartier, il y a déjà beaucoup d'habitat loyer modéré. Et est-ce qu'il est nécessaire de renforcer ce quartier sur lequel, bon, des fois, il y a quelques difficultés. On voit d'ailleurs le problème des poubelles lorsque dans les quartiers sensibles, hein, je dirais sensibles parce que c'est relativement difficile de faire arriver à admettre certaines choses. Et ça me paraît difficile. Parce que la résidence du parc va être coincée entre deux groupes d'HLM. Bon. Alors, ça va déprécier. Là, je défends les habitants de la résidence du parc et les propriétaires. Je considère que moi, ça va déprécier les appartements de la résidence du parc. Mais ça n'est que le mien, d'avis. Hein. Ça n'est pas. C'est à moi. Et je pense que. De refaire des HLM, parce que bon, il ne faut pas se tromper, hein, ce sont des HLM, avec des loyers, avec des ressources maximum, mais pas de ressources minimum. C'est-à-dire que quand vous n'arrivez pas à louer à des gens qui ont 40 000 € de revenus, vous les louez à des gens qui en ont 25 000. Il faut savoir ça. Il faut savoir que.
C'est déjà pas mal.
Oui, mais je ne dis pas que c'est pas mal. Je dis que la grille, là, c'est pas cette grille-là. C'est une grille maximum de revenus. Mais il n'y a pas de grille de minimum de revenus. Vous comprenez, hein, vous comprenez. Et vous pouvez vous retrouver avec tous ces bâtiments en pur HLM.
Attendez,
tu dis que ça va, déprécier. Est-ce que Résidoise a déprécié les logements qui sont à côté ?
Non, mais Résidoise était.
Je pense pas.
Résidoise était. D'abord.
Ah, pourtant, ce sont des personnes âgées, c'est le même type de personnes.
Il y avait Résidoise, il n'y avait que des personnes âgées.
Ouais,
c'est totalement différent.
Là, il y a quand même. Deux bâtiments avec des personnes âgées.
Vous n'avez pas la certitude. Dans Résidoise, il y a un cahier des charges. Vous avez obligation d'être à la retraite. pour pouvoir. Là, ça n'est pas le cas. Si, vous savez.
Mais il y aura un cahier des charges également.
Si vous le connaissez bien, hein, il arrive un moment où.
On fait la même chose.
Hein. Ils ne peuvent pas laisser vide. Donc, si c'est des jeunes, ils mettent des jeunes. Si c'est des personnes âgées, ils mettent des personnes âgées. Mais ça n'est pas bloqué.
Non, non, il y aura un cahier des charges. Ensuite, je vais revenir sur quand même les points que vous avez évoqués, puis après, je vous donne la parole, madame. 23 à 25%, vous avez dit. C'est donc 2%. Aujourd'hui, sur Verberie, nous sommes à 2000 logements, à quelques logements près. 2%, ça représente 40 logements.
Mais je ne dis pas qu'il faut... Aujourd'hui, nous n'avons aucune obligation. Alors, demain, peut-être, mais demain, on en parle tant. Hein, demain, peut-être, ça, mais est-ce qu'il faut... Alors, je ne dis pas qu'il ne faut pas en faire. Je dis que dans ce quartier-là, je dis qu'il y en a assez.
Ah, attendez.
Et, attendez, d'autres... Il y avait le clos des Hirondelles, le clos des Martinets. Là aussi, la société Silova voulait remettre des bâtiments et des immeubles. Nous sommes opposés à ça et nous avons demandé que ce soit des maisons parce qu'il y a trop. Il y a trop. Aujourd'hui, on ne referait pas ça. Aujourd'hui, on ne referait pas ça parce que c'est concentrationnaire. Il faut en mettre, il faut dispatcher sur la ville, en mettre un peu partout, mais pas trop. C'est trop concentré. Bon, le projet en lui-même, il est bien, le projet en lui-même. Le problème, c'est que on rentre trop sur cette partie de ville des habitants moyens modérés. Et je ne dis pas qu'il ne faut pas en faire, mais moi, je dis pas là. Et alors, il y a que je comprends
où
assez.
Moi, dans je suis un
assez gonflé de la part du lotisseur hein, d'avoir promis aux gens qui ont acheté, il y en a quand même pas de 130, combien ils sont
108.
D'avoir 108, de leur avoir promis que derrière, il y aurait de nouveau une résidence et non pas des HLM. Et là, je me suis assez opposé.
Pourquoi il n'y en a pas de. Pourquoi il n'y a pas eu de résidence c'est bon, bah, après.
Mais parce qu'il y avait un problème.
Oui.
Il y avait un problème aujourd'hui financier. Que...
Non, pas un problème financier.
De quoi?
Si la personne, le promoteur, n'a pas construit, ce n'est pas un problème financier.
Si, c'est parce qu'il ne le vendait pas. Mais bien sûr que si. Mais bien sûr que si. Moi, je l'ai rencontré, je ne sais pas combien de fois, il a même retiré son. Le permis de construire était. Il avait été déposé, il était obtenu. On l'a même prolongé de 2 ans, son permis de construire. Mais vous savez que pour entamer ce type de projet, il faut avoir vendu 50% sur plan. Si vous n'avez pas vendu 50% sur plan, vous ne pouvez pas mettre en route. Donc, comme il n'en est pas 50% sur plan, il a dit, bon ben, je vais trouver une solution, je vais vendre la SHLM. La SHLM est venue me voir, le promoteur est venu me voir en me disant, moi, je vends, sans se soucier de ce qu'il avait vendu avant. Moi, je trouve ça profondément malhonnête. C'est mon
sentiment
maintenant, chacun fait ce qu'il veut, hein.
Alors,
moi, les engagements, pour moi, sont les engagements.
Alors, je crois qu'à l'époque, il y avait concurrence entre plusieurs projets aussi, et que le bailleur, enfin, pas le bailleur, le lotisseur, comme vous dites, ou le promoteur, a choisi finalement de ne pas construire. Mais,
Il a fait monter le terrain dans sa holding.
Oui. Hein. Donc, bon. Moi, je reviens sur un certain nombre de faits. 2%, on a dit, c'est 40 logements. Donc, vous dites, faut construire ailleurs, il faudra me dire où. Vous parlez de dépréciation. Moi, je crois qu'aujourd'hui, si on veut renforcer la valeur des bâtiments qui sont à ce niveau-là du parc, c'est plutôt par la rénovation de Pompidou et de Saint-Exupéry qui, effectivement, pour le coup, doivent pénaliser la résidence du parc.
Oui, mais enfin, je vais vous dire une chose. Hein, ça fait, pour la rénovation des bâtiments de Pompidou et du reste, hein, il a fallu se battre pendant des années pour avoir uniquement la peinture des merlets. Hein. Alors, moi, il y a longtemps que je ne crois plus aux grandes promesses des bailleurs sociaux. Hein. Là-dessus,
bien.
Ils sont tous pareils.
Oui, oui.
Ils vous promettent la lune, et puis à la fin, il faut faire les comptes, hein, et puis il faut équilibrer les comptes. Et le reste, on s'en fout.
Demain, le bailleur social va quand
même.
Demain, le bailleur social va quand même annoncer la rénovation des merlets. Complètement.
Ah bah attendez, ça,
Non. Cahier des charges signé, etc.
Il est qu'en même temps. Ça fait,
Le quartier va être
ravi. Donc
il ne va pas déprécier les nouvelles constructions, puisque le quartier va se réhabiliter.
La population dont on ne maîtrise pas, cette population, nous ne la maîtrisons pas. Puisque, vous savez très bien que quand le sous-préfet ou le préfet a dit on mettra, vous n'avez rien à dire.
Aujourd'hui, l'État, Monsieur Floury, aujourd'hui, l'État n'exerce pas son quota.
Ça fait un transparent d'ailleurs sur le droit depuis très longtemps, donc c'est quand même fait en partenariat avec les élus, sauf dans des cas très précis.
Il a deux bâtiments de 50 appartements qui sont squattés totalement.
Mais nous ne sommes pas Argentine, nous sommes à Verberie. Ça n'a rien à voir.
Je vais vous dire,
nous sommes à Verberie.
Est-ce qu'il ne faut pas concentrer tout sur les...
Non.
Ce qui te dérange plus, c'est pas le bâtiment qui te dérange, c'est plus les gens qui vont être dedans.
C'est
surtout ça.
C'est la concentration d'habitats loyers modérés.
C'est ça, c'est quand même ça.
Sur un même
secteur. Ça doit être mixé, mais par quartier. Il doit y avoir une mixité. Mais là, tout est concentré sur le même quartier. Et on ne va pas me faire ce coup-là à moi qui ai fait construire les autres. Alors là, je veux dire que c'est une population
a priori, c'est quand même, puisque ça va, puisque tu dis que ça va porter préjudice aux gens qui sont derrière. C'est quand même sous-entendu.
Aujourd'hui, je vais vous dire une chose, on n'aurait pas refait pareil.
Mais c'est vous.
On n'aurait pas refait pareil. Et justement, comme on n'aurait pas refait pareil, je ne vois pas pourquoi il faudrait continuer encore à en rajouter.
Non.
On ne referait pas pareil. Donc,
c'est pas tout à fait le profil de logement.
C'est quand même, ça finit. Non. Ça finit pareil, sous des grands mots qui sont.
Alors, il y a plusieurs questions. Tout à l'heure, il faudra me dire où vous les mettez, les logements supplémentaires que l'on mettrait, mais pas à cet endroit-là. Je rappelle que cet endroit-là est en zone de construction collective. Pour le coup, c'est pas nous ici qui l'avons. Je reproche pas ce qui a été fait. C'est pas nous qui avons défini que cette zone était une zone pour habitat collectif.
C'est le PLU de 2001. A voulu racheter le terrain, on s'est opposé. On s'est opposé, il a été vendu à une société, à un lotisseur privé, pour justement arrêter les HLM, puisque bon.
Moi, je vous invite à aller voir à quoi ressemble ce qui a été choisi, ce qui a été mis à choisir au bac.
Non, mais alors là, je connais tout ça. C'est très bien, aujourd'hui, c'est très bien. Demain, écoutez, si vous aviez été à Nogent il y a 50 ans, et bien, le quartier qui aujourd'hui a été détruit en partie, il était super. Et même les bâtiments sont encore super puisqu'ils étaient en pierre. Seulement, tout a glissé. Bon. Et c'est quand même le problème. À partir du moment où vous concentrez une certaine population.
Mais pour le coup, on ne la concentre pas.
Vous êtes extrêmement péjoratif quand même.
Et, attendez, je continue sur un certain nombre de sujets parce que je.
Je me suis aussi élevé contre le PIA, contre le parc naturel régional, où il y a une autre certaine population aussi. Et je considère que le parc naturel régional, c'est une concentration de riches. Et vous voyez, là, je ne suis pas, vous allez peut-être dire que je suis péjoratif, et là aussi je ne suis pas d'accord. Parce que le PNR, c'est uniquement des gens qui ont des gros moyens financiers. Vrai ou pas?
Je pense pas qu'une œuvre sur Verberie soit une. Je continue sur ce que vous avez dit.
Oui, c'est un débat, oui.
Bah oui, mais justement, bah, arrive un moment quand on entend des salles pareilles, ça va. Ouais. J'ai vécu dans des milieux urbains beaucoup plus denses qu'ici. J'ai vécu dans la campagne, j'ai vécu. Je ne peux pas savoir de ce qui peut être fait. Ne racontez pas d'histoire en disant que ça, ça va amener de la vermine et tout, parce que là, c'est ce que vous êtes en train de dire. Non, non, je ne perds pas mon sang-froid.
Reste calme. Reste calme.
Je ne perds pas mon sang-froid. Ça m'énerve d'entendre des âneries pareilles.
Non, non. Attendez, simplement sur le... Attendez, je voudrais bien... on retrouve de la sérénité et on continue le débat. Sur ce que vous dites sur le PNR, bon, c'est un autre débat qu'il faut avoir. Je rappelle quand même que Pont-Sainte-Maxence est dans le PNR. A priori, ce n'est pas une ville de riches.
Partiellement,
mais je rappelle que ce n'est pas une ville de riches. Puis, voilà. Ensuite.
Vous n'allez pas me dire que Chantilly, Gouvieux, Senlis et tout le monde.
C'est pas le même contexte.
La Morlaix, vous n'allez quand même pas me dire que.
Il n'y a pas que ça dans le PNR.
Moi, je vais vous dire une chose. Les revenus moyens de Senlis, Chantilly, La Morlaix, c'est 60 000 euros en moyenne. Les revenus de Vermerie, c'est 20 000 ou 22 000
un peu plus.
Voilà. Donc, ce n'est pas. Mais, on peut dire ce qu'on veut, ce ne sont pas les mêmes populations.
Mais attendez,
oui, mais je suis d'accord.
Mais qui en ont moins.
Et il y en aura de plus en plus qu'on pas de sous. Heureusement.
Attendez,
il y en aura de plus en plus qu'on pas de sous.
C'est tout.
C'est pas des personnes de 60 ou 70 ans qui vont aller brûler les poubelles, je pense pas. Il y a la moitié. Il y a déjà la moitié.
Attendez, je vous donne la parole, c'est promis. Hein. Monsieur. Alors, sur l'affaire des poubelles, aujourd'hui, on est sur des logements qui sont sur d'autres concepts. Aujourd'hui, il y a des bâtiments pour les poubelles dans tous les logements. Là, il y en a de prévus. Et ça, effectivement, c'est tout à fait nécessaire maintenant. Non, mais... Donc, ce genre de dérive, d'ailleurs, qu'il faut régler à Pompidou et à Yourcenar, on va s'attacher à le régler avec le bailleur social. On en parle régulièrement. On va avancer.
Avec le bailleur social, on en parle depuis 20 ans. Avec le bailleur social.
Moi, j'en parle depuis.
Toujours, oui, oui, oui.
J'en parle depuis un an et demi. J'en parle depuis un an et demi.
Mais moi, je.
Bon. Ensuite, on participe en ce moment, justement, c'est Annie qui participe aux commissions d'attribution hein, en tant qu'adjointe aux affaires sociales. Je crois qu'en ce moment, alors, j'ai pas le bailleur social, évidemment, n'est pas choisi. Ce ne sera pas forcément Picardie Habitat, Silova, enfin, c'est pareil, hein, histoire de groupe et. D'ailleurs, peut-être que ce n'est pas souhaitable d'avoir justement le même bailleur social.
C'est pas souhaitable du tout. Hein.
Voilà.
C'est la seule chose sur laquelle je vous rejoins. Mais voilà. De toute façon, pour moi, c'est pas là qu'il faut.
Et ce que je voulais dire, c'est qu'aujourd'hui, dans les commissions d'attribution, le bailleur social est très exigeant sur les revenus des personnes. Dans la politique actuelle, le bailleur social regarde de très près les revenus des personnes. Lui aussi, il a eu des déconvenues. Il ne tient pas du tout à ce que ça continue. Vous savez, je pense que gérer... voilà, ils ont besoin d'avoir un parc, ils ont besoin de le renouveler, il faut qu'il y ait de l'argent qui rentre. Et aujourd'hui, dans la politique actuelle, pour un bailleur social, avoir des gens qui paient leur loyer, mais c'est essentiel. Sinon, ils vont à la faillite.
Ah, attendez, il y a toujours eu. Attendez, ceux qui ne payent pas les loyers, qui les paye ?
Nous. Hein ? Comment ?
Ceux qui ne payent pas leur loyer dans les habitats de loyer, qui les paye ?
Oui. Eh bien, qui ?
Tout le monde.
Tout le monde ?
Les impôts. Ah,
non, tout le monde ?
Pas du tout.
Ah,
pas du tout.
Bah, dire.
Ceux qui payent leur loyer, qui payent pour, loyer. Qui payent oui, pour bon. Les autres.
Ah non, mais là, là d'ailleurs, je l'ai dit, il y a trois catégories de loyers, hein, typiquement. Pour les PLAI, enfin, je suis désolé de ce vocable un peu abscon, trois catégories, PLAI, PLS et plus, il y a des loyers différents. Bon, ben ça, c'est la loi. Ça vient du fait que l'État a plus ou moins aidé la construction de chacun. Bon, c'est des choix qui sont faits à un niveau qui n'est pas le nôtre, hein, très clairement. Voilà, je crois que Madame Coulet, vous vouliez...
Oui, sur le projet, vous dites dit PLAI.
Oui.
En premier, ce qui m'interpelle, c'est justement la séparation que vous faites entre les bâtiments personnes âgées et les gens actifs.
Ouais.
Tout ça parce que je me dis qu'il y a quand même trois étages. Or, pour avoir un petit peu, bon, souvent, il y a même des personnes âgées qui changent de logement pour revenir à des rez-de-chaussée, etc. Mmh. Bon, même s'il y a ascenseur et compagnie,
oui.
C'est ça qui m'interpelle.
Ben là, il y a ascenseur. Il y a ascenseur, je pense quand même que ça...
Mais bon, je ne vois pas pourquoi les séparer. Je ne comprends pas très bien ça. Bon, c'est un avis personnel.
Hein. Il faut en discuter. Faites mes arguments là-dessus, mais on peut tout à fait revenir sur ça, puisqu'on est sur des schémas. Je peux vous donner deux arguments. Après, vous pouvez avoir des arguments contradictoires. Hein. C'était le fait que je me disais quand même qu'à un moment donné, des personnes âgées aiment le calme, mais ils aiment aussi, dans des moments de la journée, croiser des enfants, des gens actifs... parce que ça change la vie, quoi. J'imagine qu'on ne veut pas toujours être entre personnes âgées.
Enfin, c'est un...
Voilà. Donc, je me disais qu'à la fois, ce besoin de calme et ce besoin de croiser des actifs, le fait de mettre un bâtiment pour les uns et un bâtiment pour les autres, ce n'est pas du sectarisme, hein, mais ça permettait quelque part, ça faisait peut-être un bon compromis. Voilà. Mais vous avez peut-être des... Mais vous avez le droit, hein.
Un couple avec un enfant, c'est aussi sympa, parfois pour la personne âgée, d'avoir des jeunes plus hauts, ils se rendent service, etc. Donc, pour le projet, puisque vous dites que c'est
discuter,
un projet de résident, c'est mon avis. Je
vous peux en discuter. Hein.
En plus, vous dites qu'il y a 10 logements pour garder un enfant. Après, vous dites 30 logements, si j'ai bien noté, avec 35 520
Ça doit être ça.
Ensuite, je ne crois pas trop que quelqu'un qui gagne 45 000 euros, voire un peu plus, adhère à ce type de logement. L'étude, je ne sais pas si elle sera faite, si plus tard on pourra simuler qui serait candidat. Je pense, j'ai du mal à croire, m'imaginer que des cadres qui gagnent quand même au-delà de 45 000 euros aillent dans ce type de résidence. C'est pareil,
ça. Enfin, s'ils ont déjà de 45 000 euros, ils n'auront pas accès à ces appartements-là.
C'est des places au moins.
C'est 45 000, c'est
vrai, mais
c'est 45 000 déjà.
Vous savez, des jeunes cadres aujourd'hui, ils commencent dans le monde actuel. Hein, des jeunes cadres, ils commencent plutôt à 1 500 euros par mois.
Hein.
Ça a bien changé depuis des ingénieurs qui commençaient à 3 000, 3 500 euros par mois. On n'en est plus là. Hein.
Oui, je sais, mais il y a aussi une chose qui m'interpelle. Alors, ouais, vous n'avez que 10 logements qui sont à loyer modéré, d'accord. Et je m'interpelle aussi sur les revenus de nos retraités qui sont très faibles. Alors, comment vous allez faire après?
Alors, attendez, j'ai un élément de réponse. L'élément de réponse, c'est les loyers qu'on demande aux gens. Donc, je donne le loyer des trois à la suite l'un de l'autre. Hein. Pour les logements les plus aidés, donc PLAI, le loyer est de 286 euros par mois pour un T2 et de 391 euros par mois pour un T3. Pour les logements moyennement aidés, le loyer est de 316 euros par mois pour un T2 et de 433 euros par mois pour un T3. Pour
avant.
Avant.
Ils peuvent toucher la PL2 sur...
Sans charge.
Ça, c'est sans charge.
Ah oui, c'est le loyer net.
Attendez, je donne le dernier, si vous permettez. Pour le PLS, c'est donc 448 euros par mois pour le T2 et 619 euros pour le T3.
J'ai un peu de mal à imaginer comment vous allez faire avec 10 à loyer modéré, 30 comme ça, 10 comment
ils sont tous à loyer modéré, sauf les derniers. Je suis d'accord, les derniers, je pense que c'est le prix du marché, donc voilà. Pas loin.
Donc, j'ai un peu de mal
je ne sais pas combien c'est à la... Mais...
Peut-être qu'il y a eu des simulations de fait sur un taux de remplissage. Mais ça aussi, il faut se méfier, parce que même dans les villages, en tout, il y a des gens qui font des constructions, alors par contre, il n'y a pas le temps de...
C'est une question à leur poser, ça. C'est une question à leur poser.
Bah voilà, c'est ça.
Peut-être.
Non. Ceci dit...
Parce que c'est qu'ils n'avaient que 10 loyers modérés. Vous avez vu ce qui touche les retraités?
Ben c'est pour
comment
ça que tout.
Attendez,
attendez, c'est
pour. Pas y avoir accès, quoi.
C'est...
Et un jeune qui a au SMIC avec. Juste un SMIC et une femme et un enfant. Et plus les retraités qui ont des loyers modérés, il y en a. Comment vous allez faire ça, j'arrive
pas. Ben, typiquement, y a différentes gammes de logements. Hein. Il y a ceux-là, il y a aussi les logements. Ben, les autres logements, il faut les rénover. Il faut qu'on. Ouais. Il faut absolument qu'on voit comment on peut accélérer ce qui n'a pas été fait, parce que nous, on est dans des zones qui ne bénéficient pas d'une priorité comme les zones en rue, etc. Un peu plus compliqué. Mais il faut absolument qu'on rénove, parce qu'on ne peut pas laisser les choses dans cet état-là, ou qu'on fasse rénover Pompidou, notamment, qui est dans un triste état. Et Pompidou, essentiellement, qui est dans un triste état.
En fait, j'ai un peu peur que plus les côtes, enfin, les revenus...
Oui, c'est des revenus
pas
maximum.
Pas une réelle mixité de seniors et de... Voilà,
ça c'est un choix.
J'ai un peu peur que les seniors, ils aient un peu des difficultés à y accéder. Je ne sais pas, hein, mais...
Moi je pense que le PLAI avec 290 euros par mois pour un T2, donc un coût...
Mais c'est le nombre de personnes.
Ah, le nombre
c'est
de personnes
à 10,
ça fait 10 familles.
10 PLAI. Ouais.
Mais il y en a d'autres qui sont tout à fait capables de se loger en PLS.
Hein.
Il y a des personnes âgées qui auront des revenus un petit peu plus élevés qui peuvent y aller aussi. Oui, bien sûr. En deuxième tranche, ils peuvent quand même accéder.
Il faut qu'ils soient un couple.
Il faut que ce soit un couple. Des trois.
Donc de ce côté-là, voilà, est-ce que...
Et la surface des T2, est-ce qu'on les a?
Alors je dois les avoir quelque part, alors je ne suis pas sûr que je les ai ici. Je peux...
Ah ouais. On va dire là, non.
T3, ça fait 11 mètres carrés et T2.
Combien?
71 pour T3.
Ah, voilà.
49, j'ai l'impression. Pour...
Et pour T2, 49 fois 50.
Vous pouvez peut-être grossir un peu, non? Et on peut pas... Parce que ces logements-là sont évidemment tous aménagés pour des personnes à mobilité réduite.
T3, 70, 23. T2, 49, 20. Et sinon, il y a des grands T2 de 69 mètres carrés. Des T3 de 71 mètres carrés. Des T2 de 45 mètres carrés. Ça dépend certainement de la hauteur du bâtiment.
Oui, ça dépend. Ceux qui sont au R3 comble, là, sont sans doute plus petits. Hein.
R3 combles, on a des T2 de 39 mètres carrés, on a les moyennes de 40 mètres carrés.
Là, ça fait 60
mètres carrés.
C'est 45 mètres carrés. Les studios font 35 mètres carrés et les T2 font 40 mètres carrés.
Mais même, pour moi, c'est pas comparable, c'est un autre projet.
Bah, oui, c'est complémentaire. Bah oui, complémentaire. Quels sont les... Qui désire prendre la parole? Oui, Annie.
Je voudrais juste rajouter que, voilà, en tout cas, ce projet, il a l'intérêt, par exemple, effectivement, de mettre des professions médicales rechassées. Ça, je pense que c'est quelque chose d'intéressant. Je pense aussi que dans ce projet, le fait que les bâtiments soient nouveaux, ça permettra d'avoir des logements avec une accessibilité conforme, ce qui n'est pas forcément... conforme, ce qui n'est pas toujours le cas. On sait qu'on est actuellement dans des réformes d'accessibilité. On voit bien qu'avec les logements qu'on a avec Picard Delta, il y aurait des progrès à faire. Parfois, les gens ont besoin de ça. Après, il y a encore des choses, voilà, communiquer. Comme tu l'as souligné, c'est important de communiquer. Moi, je suis vigilante à la communication avec les gens qui sont dans les quartiers.
Bah, c'est important. Enfin, on ne fait pas sans communiquer. Le choix qui a été fait, c'est d'en parler d'abord en conseil municipal avant de communiquer à l'extérieur. Mais il faut évidemment communiquer et répondre aux interrogations qu'il peut y avoir.
Mais c'est déjà bien que la société soit venue nous voir pour en parler. Vous n'étiez pas obligé de le faire, et puis tu aurais pu voir un permis de construire.
Oui, monsieur Ami.
Je demandais justement le nombre de stationnements prévus.
Oui.
En tout cas, qui vous a été exposé jusque-là.
Alors, il y a 56 stationnements prévus aujourd'hui. On peut revenir sur le deuxième, celle-là. C'est marqué en tout petit, là. Je suis désolé.
Personnellement, moi, ce qui me gêne dans ce compte, c'est que 48 logements pour 56 places de stationnement, sachant que vous parlez en plus de professionnels de santé, dont on espère effectivement que ça fonctionnera pour eux et que de fait, il y aura des gens pour consulter. Je trouve que ça fait très peu, ce qui veut dire que forcément, alors, si on a peu de stationnement, ça va déborder ailleurs.
Oui. Nous avons un niveau du plan social d'urbanisme aujourd'hui, c'est 2 places par
appartement.
Pas sur des
logements aidés. Pas sur des logements aidés. Ça, c'est pas le PLU, hein. C'est pas le PLU, c'est la loi.
Il n'y a pas assez de place.
En ce qui me concerne, sur un espace comme celui-ci, c'est bien trop peu.
Même si dans la journée, les gens vont travailler et qu'ils libèrent des places, mais en soirée, ça peut coincer.
Aujourd'hui, il ne faut quand même pas oublier une chose, c'est qu'on parlait des actifs et du besoin de logement pour des jeunes actifs. Quand vous avez des jeunes actifs dans le couple, bien souvent, maintenant, il y a 2 voitures. Donc, imaginons ce que ça peut donner par la suite.
Alors là, il s'appuyait sur les retours. Je suis d'accord qu'il faut renégocier. Enfin, on en est au principe. Hein. Il faut donc peut-être renégocier les places de parking.
Et c'est quoi la distance des places de parking? Ça a l'air d'être loin quand même. Tu vois, la distance. Tu viens avec tes packs de flotte?
Non.
Il y a 20 mètres.
T'as fait 20 mètres, là. Donc je suis garé là-bas au fond, je vais là-bas à l'avant.
Ça ne marchera pas.
20 mètres?
Ça ne marchera pas. Non, le sol doit rendre les choses effectivement plus onéreuses qu'ailleurs. Oui, c'est ça.
Ils l'ont derrière. Il y a un parc.
Par contre, qu'on puisse avoir des logements des stationnements supplémentaires en superficie, je pense qu'il faut effectivement en rediscuter de cette affaire-là.
Alors, sur des espaces comme ça, les avoir sur un parking dit traditionnel, ça fait quand même une sacrée masse autour de ces quelques immeubles.
Parce que la résidence du parc, il y a la moitié en aérien et puis la moitié en sol. C'est quand même mieux. Hein.
Oui, mais ça, je... Enfin, très honnêtement, je pense que ça, en termes de budget, ça, je ne suis pas un spécialiste du logement, on peut poser la question, mais ça ne rentrera pas. Là, je vous le dis.
C'est mort. On est au sein du conseil, c'est pas la question du bénéfice de celui qui construit, c'est la question de l'aménagement de la commune et l'image de la commune.
Mais à un moment donné, il faut aussi savoir où sont les limites des choses. On peut pouvoir construire Versailles, ce serait très bien à Verberie, ou le château de Chantilly d'ailleurs, une réplique du château de Chantilly.
Bon, vous avez déjà mais... une belle comptine, c'était déjà trop.
Comment? Alors, il y a
très légèrement trop.
Qui est pas très loin. Qui est pas très loin.
Oui, mais enfin, normalement, c'est le parking public qui doit servir pour.
Le PLU demande, c'est très clair, le PLU actuel et le suivant demanderont 2 places de stationnement par logement. La loi nous dit que lorsqu'il s'agit de logements aidés, ils ne demandent qu'une place de stationnement.
Bah oui,
ça n'enlève pas le problème. Donc notre travail, c'est pas que ça s'installe comme ça et qu'on nous impose ce nombre de logements, c'est de nous assurer que derrière, on n'aura pas de nouvelles contraintes pour les riverains.
Là, c'est vrai qu'on a le parking des remparts qui n'est pas très loin, bon, qui est à proximité.
Le jour où il y aura la fête, ce sera...
Oui, le jour où il y aura la fête.
Quoi qu'il en soit, c'est comme ça. Le jour où il est occupé, c'est
terminé. Non, puis les gens, ils veulent se garer à cause de ces deux.
Il y a quand même la moitié des logements qui se passeront pour des personnes âgées, même s'il y a certains couples de personnes âgées qui ont encore 2 voitures, ça reste quand même.
Ça fera beaucoup de personnes âgées, finalement.
Pardon ? Non, ça fera un 24. 24. S'il y a des professionnels de santé, il y aura évidemment autant de logements en moins, hein, de chaque côté. Hein. Après, oui, il y en a 48. Donc, s'il y a des 4 ou 5 professionnels de santé, ben, on descendra à 43. Ben, on peut, faut discuter cette affaire-là.
Autre chose, j'avais demandé sur le conseil où ça vous avait été présenté la première fois, d'avoir un regard un peu plus poussé sur les questions de voirie, d'accroche sur les futures extensions dont on avait parlé.
Oui, alors les futures extensions qui sont au sud, là, où on ne sait pas ce qui sera construit. On est encore en zone UC, mais enfin bon, ça commence quand même à. Ça commence à faire assez. Plus loin, eh bien, il est prévu effectivement que la Sente des Merlets soit prolongée pour arriver rue d'Aucourt. C'est ce qui est prévu aujourd'hui sur cet aspect-là. Hein ?
Alors, qui finance l'arrondissement de la Sente des Merlets.
Alors celui qui finance là, c'est compris dans le projet du porteur de projet. C'est lui qui financerait jusque à peu près à la pointe de la flèche rouge là, vous voyez.
Son parking.
Voilà, il s'arrêtera là naturellement, hein. Il s'arrêtera à l'entrée de son parking. Mais après, ce sera à notre projet de poursuivre plus loin et d'avoir, quelque part, une voie de circulation qui s'ouvre ailleurs, tout en restant limitée aux habitants. Quelque part, il ne faut pas que ça devienne une aile de la rue de Paris ou quelque chose comme ça. Hein. Ce n'est pas possible, ça.
Sur ce projet-là, c'est une entrée-sortie.
C'est une entrée-sortie, oui.
Dans un premier temps, oui, ça sera une entrée sortie. Après, si elle a un autre projet, il y aura le passage, pas pour un premier temps.
Bon, voilà.
Sur les circulations, on a quand même dans ce secteur-là des rues qui ne sont pas des rues, des routes. Quoi. Donc on a des rues avec des riverains, avec déjà quelques problématiques en termes de stationnement ou de croisés. Et c'est vrai que concentrer encore une fois sur ce secteur-là, ça viendra encore surajouter pour les riverains.
Alors, on n'est pas.
Et là, je ne parle pas de la qualité des logements, oui, ou des personnes, hein, c'est pas le problème.
Mais là, j'ai du mal à vous suivre. Autant que je comprends.
Ne serait-ce qu'à la sortie rue de Montpart, déjà là, à cet endroit-là où la route n'est quand même pas la plus simple, hein, en circulation.
Oui.
Ça nécessitera, si on fait, effectivement, des adaptations autour, qui sera à la charge de la commune.
Oui, enfin, faut y réfléchir. Là, j'ai pas de. Il y aura quand même que 48 logements. Hein. On n'en est pas.
Quand on dit 48 logements, faut le multiplier par 3 personnes. C'est le nombre de personnes, c'est pas les logements qui comptent.
Non, pas par 3 personnes. Beaucoup moins. Hein.
Par 2 ou par 3, suivant.
Non, tel que ça part là, je pense que chez les, enfin, raisonnablement. Chez les personnes âgées, il y aura des couples et des personnes seules. Voilà. Et puis, du côté des on sera au maximum 3.
Pourquoi
3 ? Il y aura pas. Je pense que du côté des actifs, il y aura pas. Il y aura des enfants. Mais du côté voiture, il y aura pas. Il y aura 2 voitures au maximum. Enfin, on ne sera pas avec des jeunes de 18 ans. Ou alors, ça sera peut-être une exception, mais. Enfin, une famille, je veux dire, avec des enfants de 18 ans. Ou un enfant de 18 ans, ce serait quand même une exception.
Je pense qu'il ne faut vraiment pas traiter ce point-là de circulation, de stationnement à la légère, parce qu'on subit trop sur les quartiers.
Non, mais on ne le traite pas à la légère.
Dans votre quartier, on ne vous a pas laissé le choix. Dans votre quartier, on ne vous a pas laissé le choix.
Énorme.
À l'époque, vous y étiez.
On est vigilant.
Ça peut partir d'un côté ou de l'autre.
On a eu une seule proposition de construction.
Mais vous n'en aurez pas d'autres. Vous pourrez avoir des fonds, que ce soit la SHLM serait d'accord,
Tout le monde est d'accord. Les bailleurs sociaux sont tous d'accord sur ce sujet. Ça, ils sont tous d'accord pour venir. Ça, il n'y a pas de problème. Là, c'est une proposition. C'est oui, lui construit. Alors, il pousse. Et puis après, il dit, vous voyez, j'ai fait le boulot. Maintenant, vous n'avez plus qu'à signer en bas. Mais là-dessus, que ce soit la SHLM, tout le monde est d'accord pour... d'ailleurs, aujourd'hui, les constructions, il y a ça. C'est surprenant. Le nombre de constructions en France a chuté de 3, par 3 ces dernières années. Donc, effectivement, les promoteurs immobiliers...
Ils sont plus en recherche.
On les a tellement taxés qu'ils ne veulent plus faire de l'immobilier. Aujourd'hui,
Pour conclure, parce qu'on va peut-être passer à autre chose, mais je voudrais dire qu'il vaut mieux faire, parce qu'on a parlé tout à l'heure aussi des quotas qui peuvent s'imposer à nous, il vaut mieux faire les choses quand on n'est pas sous la contrainte que de les faire sous la contrainte et l'urgence. Et typiquement, à partir, si on s'en tient à la loi, à partir du 1er janvier 2007, nous, 17, nous serons dans l'arc. Et si nous sommes... Comment ?
Voilà, contrainte, faut relire avec le nombre de kilomètres, faut reprendre...
Non,
il faut les étudier, c'est pas un argument aujourd'hui.
Si, si, c'est un argument.
C'est une demande aux résidents de la résidence du parc ce qu'ils en pensent. S'ils sont entièrement d'accord, bon, alors là, c'est très bien. Moi, après... Mais je pense que leur avis... est quand même prépondérant sur ce que c'est eux qui ont acheté avec une présentation d'un ensemble.
Monsieur,
Moi, personnellement, je suis pas d'accord sur le fait que ça va dévaloriser les appartements qui sont derrière. Absolument pas. Je suis absolument pas d'accord là-dessus. Au contraire, c'est mieux que d'avoir derrière un tas de bois là qui. Où il n'y a que des ordures et que un terrain vague qui est derrière.
Donc
en quoi ça va dévaloriser ?
Normalement, il y aurait dû avoir un même immeuble, de toute façon.
Si ce n'est de dire qu'on va avoir des gens dont on ne veut pas.
Il y avait trois autres paris.
Bien. Donc, comment ? Enfin, monsieur l'ami, je n'ai pas entendu. Ouais, parce qu'il faut qu'on passe à autre chose.
Nous avons des appartements en s'engageant que ce soit des résidences qui aient derrière, sur la totalité.
Est-ce qu'il y a des écrits ?
C'est bien,
c'est pas. Ça, c'est à la copropriété de gérer ça, hein. C'est pas à nous.
Est-ce qu'il y a des écrits ?
Je pense que.
C'est légal. Je reviens sur un point. Donc, nous allons évidemment organiser une réunion d'information, une réunion publique de discussion. Donc, ça va avoir lieu. De mémoire sur Verberie, ce sera peut-être une première pour ce genre de choses. Je ne sais plus si au moment où il y a eu la résidence du parc qui a été montée, il y a eu une réunion avec les riverains. Je ne m'en souviens pas. Bien, donc nous allons le faire et rapidement avec parce que c'est le dialogue et de toute façon voilà, on est là pour construire la ville, hein. Après, on discute ensemble, on essaie de voir. Il y a forcément des personnes qui ne sont pas d'accord, des personnes qui sont d'accord, mais au moins il faut discuter et il faut échanger. C'est primordial. En tout cas, en faisant ce projet, moi, mon sentiment profond, parce que sinon je ne le ferais pas, c'est que j'ai l'impression, je vous donne mon sentiment profond, je n'ai pas l'impression d'escroquer les habitants de Verberie. Je le dis. Voilà, maintenant.
On va. Rien à voir dans la France. C'est entre eux. Non, non, non.
Oui, mais. Mais moi aussi, je prends en compte quand il y a le projet, je n'ai pas le sentiment qu'on aille dans cette voie-là. Maintenant, on va terminer sur ce sujet. On va passer à un autre sujet. Ah, pardon, monsieur l'ami, vous vouliez ajouter un point.
Donc, déjà, premièrement, en aucun cas, on essaie de dire que vous
escroquiez. Non, non, mais c'est. Non, je donnais mon sentiment. Je n'ai pas dit que quelqu'un l'a dit, hein, parce que pour moi, ce serait assez insupportable.
Donc, on essaie simplement d'apporter des éléments à la discussion. Par contre, on disait tout à l'heure à quel autre endroit on pourrait le mettre. Je dirais qu'on s'est engagé sur un PLU. Moi, j'aurais plutôt tendance à dire donnons-nous un petit peu le temps de la réflexion, et peut-être que d'ici quelques temps, on en trouvera d'autres. On travaille justement sur ces questions-là, donc est-ce qu'on aura justement un endroit plus judicieux, plus heureux pour,
bah, écoutez, les endroits, on voit déjà que. Non, enfin. On peut, cette réflexion-là, on peut l'avoir dès aujourd'hui. C'est, on l'a déjà eu, on en a déjà parlé, quelque part. Donc, c'est, voilà. Et puis, derrière, il y a des échéances qui arrivent, quoi. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est bousculé. C'est vrai que l'État a décidé d'un seul coup de bousculer tout le monde à tel point que dans un mois, en gros, il faudra qu'on donne notre avis sur le futur rattachement en ce qui concerne l'intercommunalité. Manifestement, il y a des gens qui veulent aller très vite. Et derrière, on se retrouvera sous les contraintes que je viens d'évoquer. Et il vaut mieux anticiper que de se retrouver avec le couteau sous la gorge. Voilà. Juste pour moi avoir une... Alors, ce n'est pas un vote, hein, puisqu'on n'a pas à voter. Quels sont ceux qui ont un sentiment défavorable sur ce projet ?
Réservé.
Réservé, aussi.
Défavorable, j'ai dit.
Moi, c'est sur l'emplacement. Réservé aussi. Le projet en lui-même, je me convient pas bien. C'est l'emplacement qui me convient pas.
Défavorable, 1. 2. Pardon. 2. Qui est défavorable ? Défavorable, c'était qui ? J'ai vu 1, moi. Non,
non.
Réservé. 1, 2, 3, 4, attendez, hop, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc, favorable.
Mais quand on dit réservé, on n'est pas contre le projet.
Non, non, c'est ça, on va bien réfléchir encore.
C'est des choses comme ça, la réunion des riverains, pour que ça soit bien clair.
Ah bah, à la réunion des riverains, je referai approximativement la même présentation que j'ai fait ici. Hein. Je n'ai pas l'intention de cacher les choses. Hein. De toute façon, j'aurais du mal.
Pas opposé.
Non, c'est juste. Donc, favorable, si je continue. 11 alors. 11 favorable. Bon, de toute façon. Oui. Oui, enfin, c'est pas un vote. Hein. C'est pas un vote. Hein.
Ce sera pas au PV. Hein. Ce sera pas au PV, c'est pour qu'on sache où on va.
Bien. Je vous propose de passer à ce qu'on y a passé un certain temps, au point suivant du jour. Donc, c'est la discussion, c'est normal, ça s'est bien passé. Alors, sujet un peu moins rigolo, si j'ose dire, la mise en accessibilité des bâtiments publics. Donc, je sors mon petit papier. Si vous voulez bien faire passer, vous servez, vous donnez un exemplaire, et puis, voilà. Alors, déjà... Je relis pas le papier là, je vais le relire après. Mais déjà ce que j'ai à dire. Depuis 2005, en fait, il y a une loi qui a été votée. Cette loi imposait que les établissements recevant du public et les commerces soient accessibles aux personnes à mobilité réduite. La loi fixait l'échéance du 31...
Si jamais je dis une bêtise, monsieur Leblanc, vous me corrigez.
La loi nous imposait... qu'au 31 décembre 2015, tout ça soit terminé. peu de choses, je ne parle pas de beurrier, globalement, peu de choses ont été faites. Et aujourd'hui, on arrive au 31 décembre 2015 et la plupart des établissements, commerces, etc. ne sont pas accessibles. L'État a choisi donc d'adopter une autre procédure qui consiste à dire, notamment aux collectivités locales, mais également aux commerçants, notamment aux professionnels de santé et d'autres, eh bien, nous allons adopter une autre technique. On va maintenant vous demander, vous-même, de nous dire comment vous allez rendre vos établissements accessibles dans les 3, 6 ou 9 ans qui viennent. Sachant que la norme, c'est normalement dans 3 ans, tout doit être accessible. Derrière ça, alors je regarderai après ce que j'ai oublié dans le texte, hein, derrière ça, les exigences... Alors, tout d'abord, je comprends tout à fait que des personnes à mobilité réduite... Alors, quand on parle mobilité réduite, généralement, on pense fauteuil. En fait, il n'y a pas que ça. Il y a aussi malvoyants, malentendants. J'en oublie. Poussettes. Et les poussettes. Les personnes... on vient de parler des personnes âgées. Il est vrai qu'à un moment donné, on a un peu plus de mal à circuler. Donc, je comprends ce besoin de notre société. Et on peut y être que favorable. Après, quand on voit les normes qui sont sorties, les exigences qui y sont, les implications financières de cette affaire-là, là, c'est là où on atteint, j'allais dire, l'absurde. Mais c'est peut-être un peu excessif, mais en tout cas, le non-sens, surtout dans le moment où on est. Parce qu'on nous demande quand même des choses extrêmement difficiles, quoi. On nous demande, je ne suis pas un spécialiste de cette affaire-là, on a fait travailler la société Veritas, qui nous a fait donc un audit complet de nos bâtiments, mais pour prendre qu'un exemple, on nous dit, le cimetière, attendez, les allées, ça ne va pas du tout, il faut refaire toutes les allées, elles ne sont pas accessibles aux handicapés, 200 000 euros. Mais vous imaginez, ça c'était à la base. Bon, alors je vous ai cité un exemple, mais des exemples comme ça, il y en a partout. Alors, nous évidemment, on entre dans ce cadre-là. On doit donc fournir pour le 27 septembre. Alors, c'est la date théorique. On va essayer de la respecter. Derrière ça, on sait déjà qu'il y a des communes qui n'ont pas commencé. Donc, pour le coup, on n'est pas en retard. Il paraît même que Compiègne n'a pas commencé. Donc, on ne sera vraiment pas en retard.
Compiègne a eu une grande question.
Ah oui ?
Ils sont débrouillés.
Ouais, ils sont meilleurs que nous, là.
Enfin, c'est reculé.
Ouais, 15 ans.
Les commerçants, ils doivent le faire à leur charge, c'est ça, hein ?
Alors, les commerçants, effectivement, doivent le faire à leur charge. Ils ont un appui de la CCI ou de la... Mince. Aidez-moi. La Chambre des métiers. Hein. Mais ça leur coûte, hein.
Technique. Pas financier.
Bon. J'en profite pour dire que dans cette affaire, l'État demande, hormis ce qu'on va traiter ici, demande aux mairies de servir de guichet unique pour recevoir tous ces dossiers des commerçants. Sans évidemment compensation financière ni quoi que ce soit, ils veulent qu'on vérifie la complétude des dossiers. C'est encore une charge supplémentaire et pas des moindres. Bon, néanmoins, ce soir, on n'est pas là pour ça. On en reparlera samedi matin au moment où on parlera de la baisse des dotations avec les habitants. La réunion qui est prévue à 10h en mairie. Derrière ça, nous, aujourd'hui, on a donc, en tant que collectivité territoriale, on doit faire un ADAP, donc un agenda, pour tous nos bâtiments recevant du public. Nous avons des bâtiments qui sont de classe 5. C'est classe, on dit, hein.
Catégorie
5, mais nous avons aussi des ERP de catégorie 4 et de catégorie 3. Donc ça doit nous donner le droit d'avoir 6 ans pour réaliser les travaux. Donc ça va. Alors, attendez, qu'est-ce que j'ai pas dit dans toute cette introduction?
Mais pour avoir une dérogation, il faut donner un argumentaire pour les deux tranches de 3 ans. Parce que c'est des tranches de 3 ans.
Oui. Hein, il faut avoir un argument cohérent.
Pour un argument financier.
Ou technique.
Ou technique.
Pour lesquels on ne peut pas le faire.
A priori, avoir des ERP de catégorie 3, dans lesquels généralement il y a beaucoup plus de travaux, ou des travaux complexes, nous c'est le cas du château par exemple, eh bien ça c'est effectivement un argument suffisant. C'est ce que nous dit aujourd'hui Veritas. Donc on part sur cet expert qui a quand même... C'est déjà une affaire qui nous coûte plus de 10 000 euros, je crois, l'intervention de Veritas. C'est ça ? Un peu plus de 10 000 euros. Bon. Donc on n'a pas travaillé seul sur ce dossier quand même. La commission bâtiment et espace vert, enfin je n'ai pas travaillé seul, a travaillé sur ce dossier, examiné les rapports établis par le bureau Veritas pour chaque bâtiment à la commune. Voilà. C'était marqué dans le papier que vous avez reçu. Elle se réunira. En fait, elle s'est réunie de nouveau le 10 septembre surtout, où on a travaillé ensemble. Le 14, plutôt en comité plus restreint, parce que tout le monde était invité, mais effectivement, on avait fait l'essentiel le 10, donc on a finalisé le dossier. Voilà, donc tous les établissements recevant du public qui ne le sont pas encore peuvent bénéficier d'un délai supplémentaire par rapport au 31 décembre 2015 pour se mettre en conformité à condition de s'engager dans un agenda d'accessibilité programmé, dit ADAP, qui doit être déposé, selon la loi, le 27 septembre, avant le 27 septembre 2015, mais on sait déjà que beaucoup de communes ne seront pas au rendez-vous, d'après ce que nous a expliqué Veritas. Donc, c'est ce que je vous propose d'examiner maintenant. On a un seul bâtiment qui doit être aux normes, enfin, je l'espère, handicapé, c'est la cantine. Voilà. Alors là, il nous faut récupérer le document qui va bien. Mais c'est le seul document qui, a priori, est aux normes. Alors, on vous a distribué un papier, hop, que j'ai là, dans lequel on vous dit donne à la fois les années, ce que l'on traiterait, les coûts initiaux, et puis compte tenu des dérogations, le coût final estimé. Alors, vous voyez qu'en année 1, on traiterait l'église. Il y avait un coût initial de 11 100 euros. Mais on aurait une dérogation sur la totalité des travaux, on la demande, parce que c'est un monument classé, donc sous la coupe de l'ABF. Ça nous permet d'avoir des dérogations. Mais il n'y avait pas de très très grosses dérogations dans l'église, hein, c'était pas très très important. Le stade de football, donc au départ 11 200 euros, avec des dérogations on arrive à 3 000 euros. Alors, dans la dérogation, on va peut-être pas toutes les citer, mais il y en a une au moins qui vaut le coup. On a quand même des terrains qui sont assez meubles, a priori. On n'envisage pas de faire des équipes de sport d'handisport, pardon. On nous demandait quand même de rendre les toilettes ou la douche, les sanitaires pour l'arbitre, accessibles à un handicapé. Donc, je vois bien l'arbitre de football en petite chaise roulante sur. Le terrain en train d'arbitrer. Bon, donc, compte tenu d'un certain nombre de dérogations qu'on demande, avec l'appui, on a été conseillé par Veritas, donc ce n'est pas de notre fait, et qu'on espère obtenir, on viendrait à 3 000 euros. Le cimetière, donc on en était à 212 400 euros. On demande en grande partie dû à ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, on en reviendrait à 4 900 euros. L'école primaire du centre, 27 500 euros. On reviendrait à 12 500 euros, sachant que le principe qui serait adopté, alors c'est sous le conseil de Veritas, c'est de rendre une seule classe accessible aux handicapés. En disant, mais de toute façon, on le saura avant la rentrée, et s'il faut faire déménager une classe, on fera déménager une classe. Ça nous fait quand même une économie de, une économie de 15 000 euros. Donc, on joue de toute façon cette dérogation. Enfin, c'est ce que je vous propose. Et bon, on verra si elle est acceptée ou pas. Donc ça, ce serait la première année. Deuxième année, on ferait donc la halle des sports, initialement 17 100 euros. A priori, il n'y a aucune dérogation. Donc 17 100 euros. Le groupe scolaire des remparts, coût estimatif des travaux 92 600 euros. Il y avait effectivement un ascenseur qui était demandé. On reviendrait à 36 100 euros. Toujours avec le même principe qu'à l'école primaire du centre. Une classe donc accessible. Et en fait, comme à l'école primaire du centre, pour ce qui concerne, pardon, l'informatique, on envisage d'acheter une classe mobile, ce qui fera ça nous fera économiser de l'argent sur ce qui est prévu ici. Et puis, c'est quelque chose qui est souhaité par l'Éducation nationale. Donc, on ferait d'une pierre deux coups. Ça, c'est pas compté dans le budget que je vous présente. Le château, alors, on a en année 2, on ferait la maîtrise d'ouvrage, l'expertise de la maîtrise d'ouvrage, les préparations. Là, on n'a pas le choix, il nous faut un maître d'ouvrage pour faire ça dans un ERP, ce sont des travaux importants. On a mis non chiffrable. J'avais chiffré ça au départ au moins à 20 000 euros, mais vous pensez peut-être que ce sera plus.
Alors, juste une rectification, c'est maîtrise d'œuvre, non pas maîtrise d'ouvrage.
Ah, bon, maîtrise d'œuvre. C'était un test pour moi, voilà. Je suis tombé dedans. Donc, c'est ce qu'on ferait en année 2.
Voilà, pour le château, on peut estimer à peu près entre 10 et 12% du coût des travaux. On tomberait aux alentours des 20 000 euros. Mais voilà, à ce jour, on ne peut pas vous donner de chiffres vraiment.
En année 3, on ferait le jeu d'arc, 13 300 euros, pas de dérogation. Parce qu'on s'est dit que s'il y a bien en fauteuil roulant un sport qu'on peut faire, l'arc, le tir à l'arc, ça en fait partie. Le local ASDAPA, alors 4 300 euros, on va peut-être discuter avec l'ASDAPA pour voir qui paie quoi. C'est vrai, je crois que dedans, on a notamment au bureau, on doit avoir un endroit bas pour qu'un handicapé puisse s'installer. Ça, je pense que c'est plutôt à la charge de l'utilisateur. Par contre, l'agrandissement de la porte, bon, ça, on va voir. La mairie, alors on a mis pour l'instant 0 euros, tout simplement parce que on espère faire payer les HLM, l'ASA HLM de l'Oise, puisque c'est elle le propriétaire. On a vérifié dans nos documents, normal, il n'y a pas de clause particulière qui disent que les mises aux normes, etc., sont à notre charge. Donc on attend encore la réponse, je crois, Madame Javelot, c'est ça? Pour la SHLM de l'Oise, on attend encore la réponse?
Non, oui, parce que leurs bureaux sont exceptionnellement fermés depuis 10 jours.
D'accord. Là, ils refusent de répondre maintenant.
Bon.
Donc, on va voir. Année 4 et année 5. Donc, on ferait le château d'Aramon. Coût initial 220 000 euros. On a quelques dérogations. On arrive à 180 qui vont être demandées, encore une fois. Il faut qu'elles soient accordées. On arriverait à 181 600 euros. Voilà. Là, c'est un gros coût pour le château. On n'échappe pas à l'ascenseur. On y échappera un petit peu, peut-être en demandant une dérogation pour mettre un élévateur de personnes à mobilité réduite. D'ailleurs, je doute qu'on puisse mettre un ascenseur ou alors les travaux seraient énormes, puisqu'il faut une fosse de 2 mètres. Sous le plancher pour pouvoir mettre un ascenseur. Alors qu'un élévateur à personne à mobilité réduite, il n'y a pas besoin de choses dessous. Par contre, normalement, c'est limité à 3,20 m, donc là, on doit être à peu près à 4 m, donc il faut demander une dérogation pour pouvoir mettre un élévateur pour 4 m.
Ça ne passe pas forcément en commission.
Ouais, mais là, je pense qu'on a quand même des bons arguments, enfin, notamment dû à la structure du château. En année 6, on ferait donc. Alors, année 6, on y a mis un certain nombre de choses, dernière année. Alors, il y a pas mal de choses. Il y a l'ancienne mairie, donc aujourd'hui siège de la CCBA, mais quid de l'avenir du siège de la CCBA? Donc, ça, c'est une grande question. Peut-être que, c'est quelque part derrière l'année 6, et cette question-là, il y a un grand point d'interrogation. Après, de toute façon, s'il y a une discussion en 2021, elle aura lieu ou avant 2021 avec l'agglomération de la région de Compiègne. Le centre social, 28 400 euros. Alors, on a un projet de bibliothèque, donc on se dit qu'on va regarder tout ça en même temps. De rénovation de la bibliothèque, pardon, on n'a pas de projet de bibliothèque, elle fonctionne parfaitement, et d'ailleurs on a 10% de Verberie qui maintenant est lecteur de la bibliothèque de Verberie. Le poste de police, 4 900 euros, on l'a laissé là parce qu'on se dit que bah, si l'ancienne mairie, voilà, il n'y a plus le siège de la CCBA, est-ce qu'on laissera le poste de police où il est? C'est pas sûr du tout. Il y a peut-être une autre solution. Et puis, il y a la base nautique qui est occupée par le camp, 36 900 euros, qu'on a laissé à ce niveau-là. Très honnêtement, pour l'instant, je ne me vois pas payer ces 36 900 euros-là. Voilà. Je pense qu'ils sont plutôt à payer par les utilisateurs. Donc, on l'a mis en année 6, comme ça, on a décalé et on a le temps d'en parler. Au total, initialement, après l'audit de Veritas, qui était un audit sans dérogation, on garde d'abord tout ce qu'il faut mettre. Le coût était de 737 400 euros. Ce sont des coûts estimatifs, hein, évidemment. Et au total, il serait de 399 100 euros sur 6 ans. Quand même loin d'être, mais alors très loin, d'être non significatif. Hein, c'est énorme. Voilà. Donc, en ces temps de disette, c'est quand même... Alors, on verra ce que ça deviendra. Peut-être qu'il y aura des évolutions dans le temps. Parce qu'on a le sentiment aujourd'hui que ces agendas, ils ont demandé, mais comment ils vont les traiter? Il y a encore quand même pas mal de flou derrière toute cette affaire-là, d'après ce que nous dit Veritas.
Par contre, ça n'intègre pas de les
voiries. Comment? Non. Ça, c'est... La voirie, aujourd'hui, c'est dès qu'on refait quelque chose, ça doit être aux normes. Bon, ça induit évidemment un surcoût, mais il y a eu d'autres surcoûts sur la voirie. Hein. En tout cas, on doit rendre cet agenda, parce que là, sous le coup, sinon on n'est plus protégé juridiquement, et donc on peut être attaqué. Donc là, je vous ai donné évidemment une synthèse de cet agenda. L'audit qu'a rendu Veritas doit faire à peu près 200 pages, je pense, hein, quand on cumule tous les chaque bâtiment. Le seul bâtiment qui n'y figure pas, c'est donc la cantine, pour lequel on doit transmettre donc un certificat d'accessibilité pour le 31 décembre 2015. Oui, mais on nous demande de la mettre aux normes maintenant. Enfin, on demande de la mettre aux normes à un moment donné. On ne nous dit pas, on verra dans 6 ans. On ne va pas quand même aller plus loin. Donc, tout d'abord, est-ce qu'il y a des questions maintenant qu'on a évoqué ce sujet-là? Questions? Bon.
Si, moi.
Oui, vas-y.
C'est quoi comme type de travaux à la base nautique?
Alors, à la base nautique, il y a... alors moi, je n'ai pas l'ordinateur, mais... Il y a pour le bâtiment, il y a des marches. Donc déjà, ça commence avec des rangs. Les sanitaires, évidemment, ne sont pas des sanitaires aux normes handicapées. Les portes, je crois, elles ne sont pas assez larges. Le cheminement sur l'herbe verte, machin, ça ne va pas. Et tout ça, ça fait 39 600 euros. C'est un calcul à la louche, hein, ces affaires-là. Parce qu'on va quand même faire un certain nombre de travaux en régie. Donc, les estimatifs, qui ont, mais c'est des estimatifs grossiers, ils ont une grille et puis ils appliquent. Quoi.
D'accord. Bon, en fait, c'est pour... les gens, en fait.
Oui,
c'est de l'amélioration pour le public, quoi.
Oui, c'est pour le public.
Ah, ok, d'accord. Okay.
Pour le public. Oui, Annie.
Tu m'arrêtes pas.
Ah, mais c'est pas chez Bruno, hein.
Comment?
C'est pas chez Bruno. Hein.
Non.
C'est même pas, c'est le camp, hein. C'est
ce qu'il y a derrière. Oui.
Non. Est-ce qu'on pourrait pas dire qu'on fait l'accessibilité sur une
seule des écoles? Ah, pardon, d'accord.
On a l'ancienne piste.
D'accord. Ça n'a rien à voir là-bas.
Ah.
Ah bon?
Ça nous appartient.
Ah, je ne savais pas. L'ancienne piscine? Ah bah oui, l'ancienne piscine. Ah oui, bah oui.
Bon, là, on a bien limité quand même. Hein. Et je me demande même si... Moi, je m'interroge sur le fait que, de savoir si ça va passer, cette dérogation.
C'est pas en fait. Ça, quoi.
Non, mais on en avait parlé, de cette idée-là. C'est déjà une idée qu'on avait eue, mais on nous avait repoussé tout de suite en disant...
Bon, après, c'est en dernière position.
C'est ERP par ERP. Voilà. Alors pour vous donner mon sentiment là-dessus, mais bon, je pense que dans cette affaire-là, le besoin des handicapés pris en compte, mais qu'il y a aussi du lobbying de certaines industries qui est aussi pris en compte dans ces affaires-là. Voilà. Donc au-delà de ça. Au-delà de ça, je vous propose donc, je vous demande d'approuver l'agenda d'accessibilité programmée présenté, de solliciter les dérogations mentionnées dans cet agenda. Alors ce sera sollicité progressivement au cours des travaux, de solliciter les subventions pour permettre la réalisation de ces travaux nécessaires. La DETR devrait quand même bien nous aider, puisque c'est une priorité numéro un pour la DETR, de financer le montant des dépenses sur un crédit suffisant inscrit au budget des exercices à venir. Voilà. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Approuvé à l'unanimité.
Non. Et puis pour la DETR, je ne peux pas trop compter dessus non plus, parce que tout le monde va au même endroit.
C'est vrai. C'est vrai. Ouais. C'est vrai. Enfin.
Le sous-préfet disait demandez-moi.
Il en reste. Il disait hier, il était assez optimiste là-dessus. Hein. Dit il y a des sous, mais bon, on verra.
Et faire distribuer ça.
Oh, excuse-moi.
Non, non, ça va, on regardait ça à deux.
Je vous propose de passer au point suivant de l'ordre du jour, acquisition de terrain. Donc on vous distribue un papier. Alors vous avez déjà reçu un peu la localisation de ce terrain, mais j'ai trouvé que c'était bien de remettre une feuille. D'ailleurs, je suis le seul qui n'en est pas, mais je vais partager avec toi, Patrick. Pas de problème. C'est pour que vous voyez exactement où se situe ce terrain. Ce terrain est un terrain qui est en zone naturelle, donc classé N, donc inconstructible, à côté de la route de pont. Vous voyez sur la feuille qui est en train d'être distribuée un bout du clos Charlemagne. Vous voyez que c'est un terrain qui fait 645 mètres carrés. On a acheté déjà un terrain qui était à côté, qui est le terrain que vous voyez plus haut, là, avec la rangée d'arbres, là. Et donc, pour garder, ou limiter, mais garder la maîtrise de ce terrain, ou renforcer la maîtrise que l'on a dessus, je vous propose de racheter ce terrain de 645 mètres carrés.
Il est vendu en parcelle quoi ?
En naturel.
Naturel.
En zone naturelle.
C'est combien pour du mètre carré ?
Alors, il est pour 3000 euros, là. Donc, ça nous fait un peu moins de 45 centimes du mètre carré. Donc, voilà. Hors frais de notaire, je vous le précise. Voilà. Je vous demande la possibilité d'acquérir ce terrain.
Et c'est un terrain qui ne sera jamais constructible, ça ?
Non. Enfin, c'est non. Enfin, à moins que le PLU le décide autrement. Hein. Il peut toujours décider. Comment ?
Ça fait 5 euros le mètre carré.
Non. 21 centimes.
4,50
euros. 3 000 euros, t'as dit ?
Non, 3 000 euros.
3 000 euros.
600.
Oui, par 600.
Ouais. Ouais. Bah, c'est un petit terrain.
4,65
euros, pardon.
645. Il fait 4,65 euros.
Alors, pour être précis, sur le terrain, on veut essayer de conserver. Il est en entrée de ville, donc, quelque part, et on veut essayer de conserver la maîtrise de ce terrain. Où déjà, il y a. Bien que le terrain ne soit pas constructible. Ne soit pas des gens si on a déjà commencé à s'y installer de manière tout à fait illégale.
Voilà.
Donc, que ça ne s'étende pas, que ça s'arrête, que sinon tout le coin là, ça va devenir.
Bagdad.
Pas terrible. Voilà. Donc ce terrain appartient aujourd'hui à Monsieur Mannequin, qui est Bernard qui est d'accord pour nous le vendre. Bon, ok. Voilà.
Donc ça veut dire que la mairie garde ce terrain tel quel.
Peut-être en l'améliorant quand même.
Même l'améliorer. Non. Il va falloir déjà le remettre comme il doit.
Comment ? Alors, à l'emplacement où il est, honnêtement, Madame Coulet, le terrain qu'on a acheté avant, là, effectivement, l'ambition, c'est d'y faire des jardins communaux. Un hectare et quelques.
Ouais, c'est bien, alors.
Ce terrain-là, ça me paraît très difficile dans les conditions actuelles.
On ne pourra jamais faire les récoltes.
Ils sont récoltés avant, ouais.
Il faut même l'apiculteur de Bétizy qui s'est fait virer. Hein. On ferait du miel de Verdun.
Bon. Voilà, attendez, je prends le papier.
Pas bête, ça. Mettre un apiculteur.
Ah ouais, ils voient disparition, les abeilles.
Non, mais il y a un apiculteur qui vient de se faire virer de Bétizy parce qu'en fait, il y a des voisins qui disaient que ça gênait.
Bien. Est-ce que... voilà, pas de questions ? Donc, je vous demande de m'autoriser. Voilà, je vous demande de m'autoriser donc à signer l'acte notarié à venir ainsi que tous les documents relatifs à cette affaire en l'étude de mettre Lefranc, Taillandier, de prélever le montant de la dépense totale, donc achat parcelle plus frais et notarié, sur l'article 2111 du budget de l'exercice en cours. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Voilà, adopté à l'unanimité. Alors, révision du plan local d'urbanisme, demande de subvention complémentaire. Par délibération en date du 30 juin 2008, le conseil municipal a prescrit la révision du plan local d'urbanisme sur l'ensemble du territoire communal. Une dotation de l'État, conformément au décret 83-1122 du 22 décembre 83, a été sollicitée par délibération en date du 9 décembre 2009 afin de couvrir les frais matériels et d'études nécessaires à cette révision. Le montant de la dotation ne sera connu que lors de l'achèvement de la procédure de révision. Donc aujourd'hui, on ne connaît pas le montant de la subvention. Qui fait l'objet d'ailleurs de... Alors je parle sous le couvert de Madame Javelot, qui m'a expliqué bien les choses, et j'espère que je les ai bien retenues. On arrive à la fin. Quand on arrive à la fin, là, on va décider combien on nous donne. Et en fait, ils ont un budget global pour ça. Et ça dépend du nombre de PLU et de communes qui arrivent à ce moment-là. On divise par, le nombre de demandeurs. Donc on ne sait absolument pas combien on aura. On ne sait absolument pas non plus combien il y aura dans la cagnotte globale. Donc voilà, ça c'est ce qui se passe. Voilà. Alors le Conseil général, par contre, le 25 mars 2010, a accordé à la commune une subvention de 8 250 euros. La situation environnementale de Verberie, en particulier dans sa zone nord, et les évolutions législatives qui ont modifié le code de l'urbanisme conduisent la commune à devoir réaliser une étude environnementale stratégique. Cette étude impose notamment des études faune-flore au nord de Verberie, en particulier sur les Niefs, là où on veut implanter l'hôtellerie de loisirs, l'hébergement léger de loisirs. Également sur la zone, le triangle de Poquelin, là, qui est, je m'excuse de parler comme ça, j'espère que c'est clair pour tout le monde, qui est à côté du rond-point, à l'extérieur de l'usine, voilà. Et puis également sur la main fermée, si on veut effectivement à l'avenir en faire encore quelque chose et avoir des compensations ou des choses comme ça, au moins une étude là-dessus. Nous avons sollicité par le biais de Urban Service, qui est le cabinet qui travaille pour nous dans le cadre du PLU, trois cabinets d'études environnementales. Deux ont répondu et la meilleure offre est présentée par la société Biotop, qui est une société très professionnelle et dont le montant de l'étude est... Alors, 25 000, 60 euros hors taxes, 30 000 euros, 72 TTC. Bon, on devrait pouvoir récupérer la FCTVA. Donc, en gros, 25 000, 60 euros à payer. Donc, on demande une subvention pour cette affaire-là. Voilà. On n'a pas le choix, très clairement.
une étude de plus, remarquez. L'herberie, je crois que c'est là où il y a eu plus d'études dans toute la Picardie.
Alors, pour aller dans le sens de ce que dit M. Floury, il y a eu une étude OGE qui a été faite, notamment sur la zone justement d'hébergement léger de loisirs. Malheureusement, elle date de 2010, et pour la Dréal, ce n'est pas suffisant. Il faut la réactualiser. Et là, les capacités de discussion sont extrêmement limitées, si vous voyez ce que je veux dire. On a l'impression d'avoir des gens qui n'imaginent pas du tout, sur le plan financier, ce qu'ils demandent. Bon, maintenant, je suis d'accord aussi que la biodiversité, c'est quelque chose d'important. Voilà. Bon. Il est clair que ça ne nous fait pas plaisir, mais c'est comme ça. Monsieur le Président propose donc à l'Assemblée de solliciter une aide financière complémentaire de l'État dans le cadre de la dotation globale de décentralisation du Conseil départemental de l'Oise, afin de financer en partie cette étude supplémentaire imposée à la commune. Pardon. Voilà. Question ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? Donc c'est approuvé à l'unanimité. Point suivant de l'ordre du jour, travaux banc de l'église, troisième tranche. Donc on a fait deux tranches, là pour l'église. Il y a une troisième tranche à faire, et pour terminer le tout, il y aura même une quatrième tranche. Donc là aussi, c'est une étude qui nous revient. Mais là, ce sont des travaux, et c'est de la réalité derrière. Donc je rappelle à l'Assemblée que les bancs situés dans l'église Saint-Pierre, classés monuments historiques sur la liste de 1862, sont atteints par la mérule, champignon qui détruit le bois. Il a déjà été exécuté deux tranches de travaux de restauration des bancs et il est urgent de continuer des travaux identiques pour les autres bancs. Une troisième tranche de travaux a été estimée à 24 500 euros hors taxe, 29 400 euros TTC. Monsieur le Président propose donc à l'Assemblée d'approuver le projet de travaux de restauration des bancs troisième tranche estimée à 24 500 euros hors taxe, de solliciter auprès de Monsieur Éric Woerth, député de l'Oise, une subvention au titre de l'État dans le cadre de la réserve parlementaire. Voilà. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Approuvé à l'unanimité. Demande d'autorisation pour le renouvellement et l'extension d'une carrière sur la commune de Rivecourt. Bon, il y a eu une extension... Je cherche mon papier... Donc, voilà, nous avons reçu un courrier de la préfecture de l'Oise en date du 30 juillet 2015, nous demandant de soumettre au conseil municipal pour avis la demande d'autorisation associée présentée par la société Lafarge Granulat France pour le renouvellement et l'extension de la carrière alluvionnaire qu'elle exploite sur la commune de Rivecourt. Voilà, une enquête publique d'ailleurs relative à cette demande est ouverte pour une durée de 31 jours, du lundi 31 août au mercredi 30 septembre, inclus en mairie de Rivecourt, siège de l'enquête. Donc, ce dossier qui est très épais, qui peut être consulté, par tout le monde en mairie, fait l'objet d'un tas d'analyses de toutes parts. On a regardé, pour ici, c'est René Brouillard, qui a donc, en tant qu'adjoint urbanisme, lu l'ensemble du dossier. Bon, il apparaît que nous, on est quand même assez loin de tout ça. Hein. Ça ne concerne pas véritablement Verberie. La seule remarque que l'on peut faire, c'est toujours la même. Pour nous, ça concerne la circulation. Donc je vous propose l'avis suivant. L'agglomération de Verberie est soumise à un trafic routier particulièrement dense avec de nombreux poids lourds. Le réseau urbain n'est plus adapté à leur passage. La circulation poids lourd provoque des nuisances, vibrations des structures des maisons, bruit, etc. et des détériorations, fissures dans les maisons qui ne sont plus supportables par les riverains. Le conseil municipal de Verberie émet donc un avis favorable à l'extension de la carrière de Rivecourt, sous réserve que la traversée de Verberie soit évitée par la totalité des poids lourds qui seront utilisés pour le transport des matériaux ou pour l'exploitation du site. Voilà ce que je vous propose. Bon, il y a une bonne partie, ceci dit. 75% des matériaux partent par voie fluviale. et rejoignent Chevrière. Voilà, il reste donc 25% qui sont sur une zone non accessible aux bandes transporteuses parce qu'elles se situent de l'autre côté de la voie ferrée. Ce qui fait que, là, il faut qu'ils les évacuent par route. Voilà.
Il y a la CD 200.
Oui, mais ils utilisent. Alors, ils disent dans leur avis qu'ils utilisent l'ARD 26, notamment. C'est pour ça qu'on a mis ce paragraphe-là. Parce que. Mais c'est de toute façon pas évident qu'ils traversent sur Verberie. Mais bon, on a mis ça, c'est pour se garantir. Voilà. Voilà, c'est cet aspect-là. Parce qu'après, les matériaux sont traités derrière. Hein.
Une grande partie sur. Comment sur le concassage
de Longueuil.
De Longueuil. Ah.
Bon. Qui est contre cet avis? Qui s'abstient? Très bien. Donc l'avis est approuvé à l'unanimité. Qu'est-ce qu'on a encore? Questions diverses. Dernier point. Alors il n'y a pas de questions diverses. En information. Il y a donc ce que j'ai dit tout à l'heure. La loi NOTRe est sortie. Elle a donc au départ le seuil de fusion des intercommunalités, c'était 20 000 habitants. Il a été ramené à 15 000 habitants. La CCBA faisant 11 000 habitants, elle tombe donc sous le coup de cette loi, sachant qu'elle n'entre pas dans le cadre des dérogations liées à la densité de population ou aux zones de montagne. Il s'est tenu une première réunion au niveau de l'ARC, à laquelle assistait également évidemment M. Patrick, président de la communauté de communes, et il apparaît que nous nous dirigeons très probablement vers une fusion CCBA-ARC, selon un calendrier qui est extrêmement rapide et dense, enfin, si on en croit la loi, on va bien voir ce qui va se faire, puisque d'ici fin octobre, on devra avoir donné un avis sur, en gros, dire si on est d'accord pour rejoindre l'ARC, sachant que c'est un avis consultatif. Le maître d'œuvre de toute cette affaire, c'est le préfet. D'ailleurs, dans ce qu'on peut lire, le préfet, en gros, l'État lui dit « pas de sentiment, pas de quartier, allez-y ». Allez-y de bon cœur, supprimez le maximum de syndicats, etc., que vous pouvez faire. Je vous fais un raccourci de l'affaire. Pour nous, très concrètement, encore une fois, je me fie à la loi, donc si le calendrier est respecté, etc., ça veut dire que le 31 mars 2016, je pense que je ne me trompe pas, le schéma directeur de coopération intercommunale, je crois que c'est schéma directeur, SDCI, oui. Schéma directeur de coopération intercommunale devra être adopté. En octobre 2016, nous élirons dans le cadre, on part sur l'hypothèse qu'on va dans l'ARC, dans le cadre du conseil d'agglomération de Compiègne, nous élirons dans ce conseil communal nos nouveaux représentants au conseil communautaire selon une procédure de vote à la proportionnelle, avec un nombre de conseillers communautaires qui restent, conseillers d'agglomération dans ce cas-là, qui restent à définir, donc ça va faire l'objet de travaux. Le résultat de cette première réunion, donc pour arriver au 1er janvier 2007, où le préfet a sorti tous ses arrêtés. Pour nous, concrètement, il y a aussi autre chose, c'est que le CIVOM, donc, qui s'occupe eau et assainissement de Verberie-Saint-Val-de-Lomont, disparaîtrait immédiatement, puisque eau et assainissement, c'est une compétence de l'agglomération de la région de Compiègne. On a évoqué lors de cette réunion un certain nombre de points, peut-être pas utile de les exposer tous ici, parce qu'en fait, c'était surtout, finalement, poser les questions déjà, esquisser quelque part des réponses, mais surtout en conclure qu'il fallait maintenant mettre en place un calendrier de travaux pour qu'on se rencontre et qu'on voit les difficultés ou les points à aborder un par un. Voilà. Je ne sais pas sur le sujet, M. Floris, si vous voulez rajouter quelque chose.
C'est vrai que le dernier schéma directeur de coopération intercommunale au niveau de la CDCI déjà avait acté la fusion entre l'ARC et la CCBA, et que c'était fait fin 2014, et donc on avait 6 ans pour le faire. Hein. Aujourd'hui, donc, 2014, fin 2020, c'était déjà acté, hein, puisque lors de schéma, il y a déjà eu un premier schéma. Là, c'est déjà le deuxième schéma, et ce deuxième schéma, en fait, reprend le premier, puisque le préfet a rappelé en même temps que nous avions déjà pris que le schéma directeur avait déjà été pris et qu'une première décision avait déjà été prise entre l'ARC et la CCBA. Donc ça n'était qu'une logique de territoire, hein, puisque au départ, l'agglomération de Compiègne, le pays compiègnois comprend aujourd'hui le canton d'Attichy, l'ARC, la plaine d'Étré et la CCBA. Et il est bien évident qu'à terme, le projet de fusion fait que le pays compiègnois sera l'agglomération de Compiègne. C'est-à-dire avec, et peut-être encore avec une autre. Mais d'ici là, ça va passer du temps. Mais de toute façon, le pays compiègnois deviendra l'agglomération de Compiègne.
Ce sera peut-être déjà très prochainement. Est-ce que le préfet va arrêter un
périmètre?
Non,
il va arrêter un périmètre. Non, donc aujourd'hui, ce sera certainement dans un autre
on
passera à 20 000. C'est-à-dire qu'il y aura derrière une nouvelle législation qui dira que ceux de 20 000 seront obligés de fusionner. Et après, ce sera ceux de 30 000 qui seront obligés de fusionner. Et voilà comment ça va se passer. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui,
ce sera des lampes.
Comme
en Allemagne.
Alors, sur ce dossier, juste pour conclure, il est clair qu'il y a de gros dossiers à traiter, il y a un dossier fiscal. Je rappelle que la communauté de communes est en fiscalité additionnelle, c'est-à-dire que l'on touche ici tout ce qui fait partie des contributions des entreprises. C'est loin d'être négligeable. Quand on passera dans l'ARC, c'est une fiscalité unique. Donc, il récupère tout ce qui est fiscalité des entreprises. Bon, il y a une compensation, reste à voir comment se fera la compensation. Exactement.
C'est normalement entièrement neutre au moment du transfert.
Voilà, c'est neutre au moment du transfert, mais après, dans le temps, bien sûr, c'est là où se posent les questions.
La problématique, c'est simplement que vous perdez en fait, l'évolution de ce qu'on appelle les bases dynamiques sur l'économie. Mmh. Bon, par contre, l'avantage aussi, c'est que si demain vous perdez les grosses sociétés, vous n'assumez pas seul leur perte.
Oui.
Puisqu'en fait, c'est réparti sur l'ensemble. Ça a été le cas exactement à Pont-Sainte-Maxence, ça va être la fermeture de la papeterie qui n'a pas été assumée par Pont, mais par la communauté de communes.
Voilà.
Et quant aux taxes foncières, il y a un lissage qui peut se faire jusqu'à 12 ans.
Voilà. Alors, il y a quand même des bonnes nouvelles dans cette affaire-là. Monsieur Lamy vient d'en donner une, si jamais on avait une grosse entreprise qui partait. J'espère que ce ne sera pas le cas, de toute façon.
Le problème, c'est que si vous en avez aussi une grosse qui arrive...
Oui, exactement. On a déjà annoncé à l'ARC que sur Verberie, en ce qui concerne le réseau d'assainissement, à Verberie, on était très mal. Donc, puisqu'il y a plus de... Tu me dis si je dis une bêtise, Ferrou, plus de 2 millions de travaux à faire.
Ah oui, en urètre, en urgent, il y a 2,5 millions. En tout, le chiffrage est de 3,5 millions. Le chiffrage remonte quand même à des...
Donc là, typiquement, ce serait repris dans, globalement dans l'ARC. On ne peut pas dire que là... Le très haut débit, qui donc est en train, les travaux, hein, les camions que vous voyez dans Verberie en ce moment, c'est l'installation de tout ce qui est très beau débit. Donc c'était 2 millions d'euros à la communauté de communes, donc ça passerait à l'ARC. Voilà. Et puis, ensuite, sur le fonctionnement, alors c'est vrai que l'ARC est une, et peut-être sans doute d'ailleurs, l'intercommunalité qui est la plus intégrée et qui a fait le plus de mutualisation. Voilà, donc ça, c'est sans doute un changement de fonctionnement assez important. Ça va demander beaucoup de travaux auxquels nous participerons, et bien sûr, j'en tiendrai régulièrement informé le conseil municipal. Je crois que c'est un enjeu majeur pour la ville. Voilà ce que je voulais dire. Très bien, je clôture donc le conseil municipal de ce soir. Est-ce que par